Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de La Cellule. Alors aujourd'hui, j'ai une petite annonce à vous faire avant que le podcast ne commence. D'abord, vous constatez que le podcast est diffusé un lundi aujourd'hui. C'est tout simplement parce que jeudi est férié et que donc j'ai prévu un grand week-end ce jeudi. Donc du coup, je ne serai pas disponible pour diffuser le podcast. Donc j'ai préféré le diffuser le lundi. Une autre raison pour laquelle ce podcast est diffusé le lundi, c'est que jeudi prochain aura lieu un gigantesque quiz sur Sens organisé par la Citadelle. Ce sera à 15h sur leur chaîne live. Alors je ne sais pas si vous connaissez la Citadelle. La Citadelle, donc, c'est un podcast qui est consacré en grande partie à Sens Exalogie. C'est le podcast d'Antoine Foin et des Bouddhis qui partagent tous ensemble leur campagne de Sens, leurs impressions sur la campagne de Sens. Donc en gros, c'est aussi, enfin voilà quoi, c'est eux qui font les podcasts sur Sens maintenant, il faut le dire. C'est eux qui font des podcasts sur Sens régulièrement et c'est eux les boss, hein. Ils connaissent mieux Sens que moi-même. Donc maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est l'autorité en la matière. Donc voilà, la Citadelle organise cette fois-ci, le jeudi 26 mai à 15h, un quiz gigantesque sur Sens. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y aura pour le vainqueur ou la vainqueur du quiz, il y aura un jeu offert au choix sur ma boutique. Alors quand je dis un jeu, c'est un jeu complet, hein. Donc ça peut être Sens, la totalité de Sens, voilà, pour le Cagnan, le Vade-mecum, bien entendu, la totalité du Val, etc. etc. Donc c'est super, donc faut y aller, faut participer à ce live, c'est trop bien. Voilà, merci d'abord à la Citadelle d'organiser tout ça, et puis c'est trop génial, et puis bah, j'espère que vous participerez. Donc je vous rappelle, c'est à 15h le jeudi 26 mai à 15h jeudi prochain, gros quiz de la Citadelle. Je vais partager dans la description de ce podcast et sur Twitter évidemment le lien vers la chaîne YouTube sur laquelle le live aura lieu. Voilà, allez, à très bientôt. Je vous laisse avec votre podcast hebdomadaire. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule. Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré des émissions. On a eu quelques petits soucis. Nous sommes aujourd'hui avec Jérémy Klein. Jérémy,
bonjour,
salut,
bonjour.
Ça va?
Bah, très bien.
Toujours ludothécaire à Plouer.
Ouais.
Extraordinaire. Et nous sommes également avec Valentin Loisy.
Salut.
Valentin, qui, je le rappelle, était ce fameux joueur qui découvrait le jeu de rôle la saison dernière avec les Chroniques Oubliées.
Si c'est ça, ouais.
Également joueur de Magic, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon, de
oh, plein de choses. Tout ce qui est en jeu de cartes, le Val aussi.
Oh, ouais, le Val aussi, tout à fait.
Il se collectionne, le Val.
Il y a certains collecteurs qui sont derrière toi.
Ah, j'ai cru comprendre qu'il y a une histoire avec des contrefaçons chinoises, c'est ça?
C'est ça, exactement. Toujours est-il que... oui, voilà, je voulais m'excuser d'abord de ne pas avoir beaucoup diffusé de podcasts ces derniers temps. On a eu un petit problème de Covid, en fait, à la maison. Qui nous a obligés à annuler un week-end de podcast et un podcast. Donc, on avait un week-end avec trois podcasts de prévu avec KF, Antoine Morgenthaler et Johan. Et puis, on avait un podcast de prévu ultérieurement. Et donc, on a dû tout annuler. Donc, on a perdu quatre podcasts suite à un épisode de Covid pour moi, mes enfants, ma femme, etc. Donc, c'était très gênant. Et donc, on a perdu beaucoup de matériel. Matériel qui sera rattrapé, en fait, cet été. Et donc, du coup, ben, en cette fin de saison, ben, il n'y aura pas beaucoup d'émissions. Donc, je suis vraiment navré pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent fidèlement. Voilà, ça, c'était le petit mot. Tu avais une question, non? Il y avait un salut. Tu avais une question?
Ah oui, non, c'est Johan qui vient d'arriver.
Ah, Johan, mais vas-y, viens. Viens, Johan.
Dépêche-toi, on t'attendait, c'est génial.
C'est super. Et ton micro est prêt en plus, c'est fabuleux.
Il arrive toujours au bon moment.
Ouais, au bon moment. Et les bras chargés de pâtisserie, de sucre pour les rôlistes. On vient juste de
salut,
commencer,
salut.
Johan. Ça va la pêche?
Ça va.
Ça va. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, ce soir, je vais vous proposer. Alors, vous auriez dû être quatre ce soir. Julien Botton aurait dû être avec nous. Hélas, il a annulé lui aussi pour raison de santé. D'ailleurs, il est malade. Vous auriez dû être quatre ce soir. Aujourd'hui, je vous propose une expérience. Vous allez playtester ma campagne Cthulhu, Donjon et Domino, première mondiale. Elle a été là, elle est complète, écrite complètement, etc. On l'avait déjà playtesté un petit peu avec Cédric et Flavie, mais on n'en avait fait qu'une seule partie. Michel, Tiffen, Quentin et Lulu ont eu l'occasion également d'en tester une partie. Là, on va essayer de tester la campagne complète avec vous et avec un dispositif spécial. C'est-à-dire que je ne vais pas jouer. Je vais vous laisser. Non seulement je ne vais pas jouer, mais je vais vous laisser avec le matériel uniquement découvrir. Moi, évidemment, je resterai dans la salle en tant qu'observateur, je me permettrai de rire de temps en temps, ou alors de faire le naïf. Je vais peut-être jouer un personnage, parce que là, du coup, je ferai le quatrième, et moi, je ne dirai rien, je serai le plus... même, je vais faire le con, vous verrez, parfois, je ferai semblant de ne pas comprendre, enfin, voilà. Donc, je vais laisser l'un d'entre vous avec le matériel. Il est juste à côté de Johan. Alors, plusieurs choix. Soit on laisse le matériel à Johan, qui est fan de Donjons et Dominos, qui a lui-même écrit une campagne. Donc, ça veut dire, on imagine que c'est un joueur expert, finalement, qui arrive avec une campagne...
J'aime beaucoup le « on imagine ».
Non, mais... c'est... Excuse-moi. Dans la mesure où c'est une expérience pour moi, oui. Tu vois, l'idée, c'est d'essayer... De... Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça veut dire que la personne qui amène ce jeu, c'est quelqu'un qui, comme toi, connaît extrêmement bien.
En fait,
bien
tu joues le propriétaire. En fait, on a deux jeux. Tu as le rôle du propriétaire qui va nous expliquer le jeu.
C'est ça, exactement.
Pas de
souci. Ok.
Alors, il y a ça. Ou alors, on se dit, bah, carrément, on fait le crash test, on laisse soit à Valentin... Bah, toi aussi, tu as écrit une campagne pour Donjons et
Dragons. Non, je n'ai pas écrit une campagne, j'ai fait un petit scénario.
Bah oui, mais c'est pareil. Ça te pose un niveau quand même de...
Ah oui, lui, mais lui, il a une campagne entière.
D'accord, ouais. Ou alors, on laisse carrément Valentin en mode, bah voilà, imaginons... Mais je pense que c'est moins crédible qu'un débutant total... Alors, t'as déjà fait du Donjon et Domino quand même. Hein.
Ouais, mais j'aurais besoin un peu de temps de lecture avant de... Ouais, me lancer, okay.
Alors justement, théoriquement, non.
Ah oui, d'accord.
C'est justement l'expérience que je veux tenter. Alors, mais néanmoins, je pense que c'est plus crédible d'imaginer que ce soit quelqu'un comme Johan ou Jérémy. A fortiori, je pense Johan.
C'est parfaitement mon style de ramener ce genre de choses.
Moi, je serais le prêtre et lui, c'est le cardinal, tu vois.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que ce serait plutôt
Je préfère le cultiste.
Le cultiste. Je pense que ce sera plutôt, effectivement, le rôle d'un cultiste que de ramener ce genre de campagne. Donc, je pense... Dans un premier temps, pour un premier crash test, je pense que je vais laisser Johan. D'ailleurs, j'avais fait ça aussi pour Donjons et Domino, la première.
Oui. C'est... j'ai beaucoup aimé ne pas connaître le jeu. Et bon, bah voilà les règles.
Je lis les règles.
Et puis maintenant, bah, apprends-moi à jouer.
C'est ça, exactement.
Okay.
C'est ce qu'on avait fait. C'est-à-dire que je lui avais juste laissé le manuel de règles en mode je pense que c'est possible de, voilà, d'apprendre à jouer sur le tard comme ça. Donc voilà ce qu'on va faire ce soir. Alors la campagne Cthulhu, Donjons et Domino, au moment où vous écoutez ce podcast auditeur-auditrice, n'est pas encore sortie. Elle est à paraître. J'aimerais qu'elle sorte avant cet été, de façon à ce que vous puissiez en profiter cet été. Ce que je voulais dire, c'est que si vous voulez jouer cette campagne en tant que joueur et donc pas en tant qu'animateur, parce que je pense que moi, par exemple, il y a plusieurs fois où j'ai fait bah, avec Michel, Tiffen, Lulu et Quentin et avec Cédric et Flavie, j'ai maîtrisé cette campagne en un sens. C'est-à-dire que je suis arrivé en tant qu'animateur, moi j'avais écrit la campagne, donc j'animais la... C'est une possibilité. Vous pouvez arriver en ayant lu toute la campagne, en vous disant « je vais faire découvrir la campagne à 4 joueurs joueuses ou à 3 joueurs joueuses et moi jouer le personnage qui restera ». C'est une possibilité. Mais je pense que l'expérience optimale, c'est bien sûr « personne ne connaît ». Et on l'a juste à lire. C'est la magie de Donjons et Domino, c'est que théoriquement, il n'y a pas de meneur de jeu. On est censé juste le livre dont vous êtes le héros, quoi. Donc, tout est possible. En tout cas, si vous écoutez ce podcast, il y a de fortes chances pour que vous spoiliez méchamment. On va méchamment spoiler. Donc, ça veut dire que soit vous voulez faire la campagne, la découvrir quand elle va sortir, et dans ce cas-là, vous posez ce podcast, vous l'arrêtez dès maintenant. Soit vous voulez la découvrir et vous vous préparez plutôt à l'animer. Dans ce cas-là, vous pouvez écouter, mais sachant que vous ne pourrez jamais jouer. Soit vous voulez être joueur et ne vous faire aucun spoiler, soit ça ne vous intéresse pas. Voilà, c'était la dernière option. Vous vous en foutez de Donjons et Domino, et donc vous pouvez écouter.
Ouais, okay. Donc en fait, j'ai déjà plein de questions, mais on ne peut pas les poser là.
Bah si, parce que là, théoriquement, le joueur nous a déjà...
Ouais, mais en fait, moi, j'ai envie de questionner l'auteur, j'ai pas envie de questionner le jeu à l'heure actuelle.
On le fera peut-être après tout à l'heure, le test.
Ou alors c'est juste en découvrant. Spoiler, je crois qu'il y a des dominos.
Ah oui, Donjons et Dominos, on a déjà eu l'occasion de le présenter à la série, par contre. Donc les gens connaissent déjà Donjons et Dominos. Ce qu'ils vont découvrir là, enfin ce qu'on va découvrir là, c'est le supplément Cthulhu de Donjons et Dominos. Voilà. On avait déjà fait un podcast avec toi, Yohan, sur Donjons et Dominos.
Autre option, vous nous écoutez et vous le jouez après, grosso modo. Vous êtes des cultistes qui lisez une prophétie et pendant votre partie, vous vérifiez si elle se réalise.
C'est ça. Bon, allez, on pose les micros
à
et
toutes.
On va jouer.
À toutes.
À tout de suite.
vrai qu'il va nous entendre parler. Il va se dire,
mais de quoi il parle? Ça tourne depuis tout à l'heure.
Enregistre.
Et Romaric, tu nous entendras à ce moment-là, tu diras, merde, j'ai lancé le micro trop tôt.
C'est clair. Je perds trop de temps. Je sais pas comment mettre stop. On n'a pas envie de toucher pour pas faire de bêtises. Et j'espère qu'il va vérifier quand même. On aurait pu dire plein de trucs merdiques en fait. Comment il aurait pu nous espionner?
Est-ce que t'as vu qu'il avait signé chez un éditeur d'ailleurs?
Ouais, j'ai vu qu'il fait de la lèche et tout.
Tout ce qu'il dit, c'est de la mauvaise foi.
En fait, il est payé par Asmodée pour dire ça.
C'est ça, exactement. Tu fais de la mauvaise puce.
Sacré. C'est ce gros enfoiré. C'est sympa de nous avoir laissé le micro. Tu vas t'amuser à faire du découpage.
Oh là là. Oh. Eh, vous savez, plus de 400 podcasts, j'en ai découpé de la merde. Bon, alors, voilà, voilà.
On reprend.
Moins crispé. Alors, c'est parti, je vous écoute. Ouais. Moi, je n'ai que des.
Eh ben, on va se coucher. Bonne nuit.
Salut.
Qui veut commencer?
On va commencer peut-être par des évidences, non? Ouais. C'est-à-dire que. Oh, incroyable, la bonne référence à l'appel de Toulouse. Voilà, ça c'est fait.
Pour moi, c'était une très grande surprise.
Ouais.
C'est-à-dire le fait qu'il y ait des références à l'appel de Cthulhu?
Oui.
Ah oui?
C'est ironique.
Ah. Je disais ok.
Non, par contre, effectivement.
Non, c'est tous les ajouts.
Alors,
par contre.
Attention, hein. Je pense que vous confondez l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle,
et le mythe de Cthulhu.
Et le mythe de Cthulhu. Ouais, parce que l'appel de Cthulhu, c'est le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu.
Oui, je suis d'accord.
Alors, effectivement, il y a des références au jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Ouais. Mais évidemment, il y a des références au mythe, de Cthulhu. Cthulhu. Ça, c'est sûr. On est dans l'univers de Cthulhu.
Je dirais même peut-être. C'est vrai que je ne connais peut-être pas suffisamment le mythe de Cthulhu et les œuvres de Lovecraft pour savoir si. Lovecraft fait mention des œuvres de Chambers, de Le Roi en Jaune. Je sais qu'il fait mention de la cité.
Bonne question.
Qui était nommée, que j'ai lu en plus deux fois. Ça devrait me revenir, mais tu fais mention d'une cité qui est dans Le Roi en Jaune.
Alors, moi, à savoir que j'écris ce jeu sur la base du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu.
D'accord.
Qui
d'accord.
S'appuie sur le mythe de Toulouse, c'est-à-dire c'est pas que Lovecraft, mais aussi les différents auteurs qui ont travaillé derrière.
D'accord, donc c'est l'occasion de faire.
Lovecraft s'est inspiré de Chambers pour le mythe de Cthulhu.
Il me semble bien, ça c'est sûr. Alors, c'est l'occasion de faire un petit point là. L'appel de Cthulhu est toujours aujourd'hui une propriété de Chaosium. Donc le fait qu'il y ait des références à l'appel de Cthulhu, par exemple le fait qu'il y ait des points de San, des jets de San à faire et tout ça. Je pense que ça interdit, de fait, la commercialisation de donjons de Cthulhu, donjons et dominos.
Ouais.
J'aurais pu faire fi de toute la dimension chaosium en fait de l'appel de Cthulhu pour rendre le jeu vendable. Parce que le mythe de Cthulhu, par contre, lui, est libre de droit.
Ouais.
Ça, c'est des petits trucs, mais voilà.
Non, donc mais là, c'est vrai,
dans le domaine public.
Oui. Dans le
c'est très
dans
différent
public,
dans le droit français de mémoire.
Tout à fait.
Libre de droit, tu dois quand même faire la paternité de l'œuvre que quand tu es dans le domaine public de mémoire, tu n'as plus besoin. Donc, il ne faudra pas hésiter à me reprendre si je me trompe, je ne suis pas spécialiste.
Ça, je ne sais pas.
Mais de mémoire, il y a une grande différence dans le droit français de ce côté-là.
D'accord, ça, je ne sais pas. Mais par contre, voilà, toujours est-il que ça condamne ce jeu à n'être qu'un fanzine. Tu vois, un jeu de fans, parce que je fais des références explicites au jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Or, comme je n'ai pas la licence, j'ai pas le droit de vendre, tu vois.
De c'est commercialiser.
Donc finalement, c'est un scénario fait par un fan de L'Appel de Cthulhu de Chaosium, comme un autre en fait. Sauf qu'il émule son jeu avec en plus du donjon et domino, mais c'est comme un scénario qui serait sur un forum écrit par un amateur de L'Appel de Cthulhu. C'est pour ça qu'il n'est pas en vente. Donc, dire qu'il y a des références à L'Appel de Cthulhu, en réalité, ce que vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas trivial. C'est très important.
Bah, surtout, en effet, pour la règle de droit, de commercialisation.
Exactement.
Et tout ça.
Ouais.
Donc, effectivement. Donc, on n'a rien gâché, il n'y a pas de complot. Oui, il y a bien plein de références à l'appel de tout.
Bah, et donc, notamment les jets de San, donc indécents.
Voilà. pour continuer, du coup, une des premières choses qu'on a reçues par rapport à la lecture des règles, c'est que, du coup, sur nos fiches de personnages, qui ressemblent beaucoup aux fiches de personnages de Donjons et Domino, il se rajoute quand même quelque chose qu'il n'y avait pas dans Donjons et Domino, c'est tout un background au niveau des personnages.
Oui.
Et ça, déjà, ça va nous amener vers un jeu qui n'est pas le jeu puzzle Donjons et Domino. Parce que pour moi, le Donjons et Domino, je joue en mode le jeu puzzle. C'est-à-dire que je suis face à des données, il y a des stats, il y a l'aléatoire, mais qui peut gérer suivant les positions de différents personnages. Enfin bref, c'est un jeu qui peut vraiment se jouer en solo. Je ne sais pas si je pense que je ne prendrais pas plaisir à jouer en solo ce jeu-là. Parce que tout le background nous amène plus vers un côté roleplay. Je pense qu'on va y venir plus longuement.
Oui, je suis assez d'accord avec toi.
Moi, déjà, effectivement, j'ai une première remarque de ce côté-là, et c'est là où déjà, je pense que moi, j'ai déjà commencé à parler d'une des mécaniques que tu intègres dans Yuan. Cette mouture de Donjons et Domino. C'est à un moment de temps, la partie, maintenant, c'est clairement, je crois que c'est explicité, faites du roleplay par rapport aux données que vous avez récupérées sur vos feuilles de personnage. Et là, effectivement, quand tu es tout seul, cette phase-là, moi, cette étape-là, ne sert strictement à rien. Et on peut choisir, justement, les informations qu'on juge cruciales de les donner, celles qu'on préfère garder un peu pour soi, on n'en parle pas.
Ouais.
Et je pense que si on joue tout seul, ou au moins en effectif réduit, je crois avoir lu... qu'à deux, en fait, on joue deux personnages.
Ouais.
Ça casse ce côté... les personnages sont mystérieux, en fait. On ne sait pas trop... on ne sait pas si la personne a révélé, en fait, toutes les facettes de son personnage ou toutes les subtilités de son personnage. Ouais, et ça, c'est vraiment bienvenu, en fait.
Valentin.
Et est-ce que ça peut se faire en format aussi... pour jouer à plusieurs, mais est-ce qu'on peut l'imaginer, faire un scénario pour comme le livre dont tu es le héros?
Oui, bah logiquement oui, tu peux jouer tout seul.
Moi c'est ça. Hein.
Ah oui, tu peux tout à fait jouer tout seul. Alors après, je suis d'accord avec Johan et Jérémy sur ce point, c'est que ça reste nettement moins intéressant tout seul qu'à deux joueurs.
Oui.
Deux joueurs, c'est le minimum. Alors si vous jouez à trois joueurs, la base vous conseille de laisser Howard de côté. Donc c'est Howard qui va être mis de côté et joué collectivement. Parce que dans le scénario, on découvre, et ça, Jérémy a commencé à découvrir, que Howard est le héros.
Oh là, ça se découvre.
Il y a un parasite, il y a quelque chose qui parasite. Oui. Ah, c'est pas grave. T'as appuyé sur quelque chose ?
J'ai dû appuyer sur un des câbles, sans faire exprès.
Parce que c'est toi le
fils... Ça se repère même à l'introduction. Quand tu as présenté le background, j'ai fait « Ah bah du coup, tout le monde va vouloir être Howard parce que quelque part, c'est lui qui fait le lien avec tous les autres personnages. »
Et donc c'est pour ça qu'il est conseillé, mais c'est dit texto, dans la note, avant même le premier scénario.
Au
tout début, tu l'as passé ce passage.
Oui, mais justement, je l'ai fait exprès pour la distribution des personnages.
Ouais, mais en fait,
je le savais en fait que... Ouais. Et en fait, en disant ça, je ne voulais pas focaliser en disant « Bah voilà, on va avoir un héros ». Dans ce cas-là,
ouais, je comprends. Mais en fait, il est important de tout lire. Or, la première chose que je remarque, c'est que comme on était un peu pressé par le temps et que je t'ai mis le livre dans les mains à brûle pour toi, il y a des moments où tu as lu non et tu as sauté. Et en fait, je pense
la
que tout est important.
La partie type de tout sera donc un joueur ou une joueuse pour chaque personnage, sauf pour le professeur Howard. Mais évidemment, rien n'empêche de tenter cette aventure à 4 joueurs ou joueuses. Dans la mesure où ils concentrisent beaucoup de révélations, l'idéal est donc de le jouer de façon.
Tu vois, c'est hyper important. Ouais. La partie type de Cthulhu et Donjons et Domino serait donc un joueur ou une joueuse pour chaque personnage, sauf pour le professeur Howard. Mmh. Donc en réalité, c'est plutôt un jeu à 3 joueurs plutôt qu'un jeu à 4. Et ça, on va y revenir quand on va... Et pourquoi ? Parce que je sais que la situation qu'a vécu Valentin ce soir, elle peut être amenée à se reproduire très souvent.
Oui.
Ouais,
parce que c'est Donjons et Domino.
Ce soir.
Et on va en parler. On va voir ce qui s'est passé pour Valentin. Mais donc la partie optimale, c'est plutôt 3 joueurs que 4 joueurs. Mais à 4 joueurs, ça marche aussi, il n'y a aucun souci.
Mais c'était déjà le cas avec Donjons et Domino classique.
Voilà, c'est ça.
Tu avais déjà signalé que c'était mieux à 2-3 joueurs qu'à 4 joueurs aussi, non ?
Oui, dans la vidéo.
Ok.
Ouais. Je crois que c'est précis dans la base aussi. Vas-y, hein, continue.
Ok. Enfin, deuxième élément aussi intéressant, c'est que on sait qu'on va être dans un jeu où l'histoire va être plus importante parce que tu nous rajoutes une note de mystère qui va bien, bien sûr, avec l'ambiance Toulouse, avec cette fameuse enveloppe fermée qui va être posée à côté du jeu, donc sur la table, bien présente. Mais il y a une enveloppe, on ne sait pas à quoi ça sert. Et là, du coup, tu as voulu rajouter une note de mystère qui, bah, du coup, c'est très, très sympa parce que, du coup, il y a une motivation à y aller, quoi. Il y a une motivation à dire dans quoi on y va, dans quoi on va. Et vite, il faut qu'on commence l'aventure pour savoir c'est quoi déjà première découverte, chercher à savoir ce qu'il y a dans cette enveloppe.
Et au-delà même de l'enveloppe, là, c'est vrai que l'enveloppe, c'était vraiment l'élément visible. Dès le début, on sait qu'il y avait une enveloppe. Il y a aussi beaucoup de matériel supplémentaire. Dans les annexes, si on a la capacité spéciale qui permet d'écouter, ça nous permet d'avoir des informations supplémentaires. Je m'attendais justement à ce que vous me posiez la question quand on a visité le bureau du père de Ward. Non, mais t'as écouté aussi quelque chose. C'était quoi ?
C'est marrant que personne t'ait posé la question.
Oui,
C'est pour ça, je voyais de temps en temps des petits regards de la part de Rome sur...
Tu dis rien. Bon, moi, tu sais pourquoi je t'ai pas demandé ? Parce que d'expérience, je sais que c'est le genre de compétences écoutées qui t'amènent le plus souvent à perdre des points de san qu'à en gagner. C'est comme bibliothèque, tu sais, tu fais « Oh, trop bien, j'ai bibliothèque !» Puis la plupart du temps, les livres que tu trouves, en fait, ils vont te rendre fou parce qu'ils contiennent du contenu que t'aurais pas dû lire. Voilà. Vas-y, Johan, je te prie.
Et je suis content de la manière dont tu as amené ces compétences-là. Je m'explique. J'avais peur que ce soit ces fameuses compétences perception qu'on retrouve partout, où tu arrives dans une salle, faites-moi un jet d'observation. Et puis si tu rates, bah, tu ne vois pas le gobelin ninja qui est à 3 mètres de toi, lumière. Non. Et j'avais peur que ce soit quelque chose comme ça. Et là, en fait, c'est bah, effectivement, vous rentrez dans la salle, vous avez la compétence-là, voilà ce qui se passer. Après, la seule petite chose que je trouve un peu dommage, c'est que la personne qui du coup lit le jeu, moins le scénario, n'a pas un encart pour dire si il y a une personne qui a ça, qui a telle compétence, lisez ce qui suit. Parce que là, ça force en fait à lire ben, si vous avez la compétence écoutée. Dans ce cas-là, faites ça. Donc ça force en fait la personne qui a écouté, moi, pas tout à fait, parce que là c'est celui qui révèle, mais admettons pour la bibliothèque, c'était marqué, ben, si vous avez un joueur qui a la compétence bibliothèque, dans ce cas-là, il va pouvoir faire une action supplémentaire. Là en fait, ce ne serait pas explicité, ben, tu rentres dans la bibliothèque alors que tu as la bibliothèque, ben là, d'un coup, tu as celui qui a le livre qui dit ben ouais, t'es entré à la bibliothèque alors que t'es à la bibliothèque. Donc, du coup, voilà ce qui peut se passer.
Ouais.
Voilà ce qui va se passer. En fait, ça forcerait en fait, à avoir une mécanique de jeu que tu découvres, en fait, qui te permet de montrer que ben, quand tu rentres dans une pièce, quand tu as une compétence qui est rapport avec cette pièce, ben, ça te permet.
Alors, ouais. Je vais te dire pourquoi j'ai fait le choix de ne pas faire ça.
Ouais.
Parce que la charge cognitive dans ces cas-là est sur la personne qui lit. Et entièrement sur cette personne. C'est à elle de se souvenir qu'il y a bibliothèque à cet endroit-là. Alors que là, en disant, si vous avez bibliothèque, la personne qui a bibliothèque active, ses petites neurones s'activent en mode « Ah, mais c'est moi !» Oui. Et du coup, c'est lui qui a la charge mentale.
Exact. Et puis, c'est vrai que moi, je me suis retrouvé deux, trois fois en porte-à-faux à cause de la charge mentale de
exactement.
Tout le reste, en fait.
Donc déjà, c'est suffisant. Donc il faut vraiment veiller à bien répartir. Non, le rôle du lecteur, c'est de lire. Le rôle des joueurs, c'est de voir quand il y a un truc qui s'active. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé à cette partie. Ouais. Tout le monde a activé ses petits neurones quand il fallait. La bibliothèque, immédiatement, Jérémy s'est dit « Ah, c'est moi qui ai bibliothèque, il va y avoir un truc pour moi là. » Tac, tac, tac. Ça a très, très bien fonctionné de ce point de vue-là. Et je pense que ça doit rester comme ça. Le seul défaut de ce truc, c'est que quand tu imprimes la base et que tu découpes, c'est moi qui l'ai fait, quand tu découpes les aides de jeu, il y a certaines formes d'aides de jeu que tu vois forcément, parce qu'en les découpant, tu vois un peu ce qui va être trouvé. Donc, celui qui est amené à découper les aides de jeu va un petit peu se spoiler. Mais bon, voilà. Alors, en général, c'est alors, comment il s'appelle d'ailleurs le maître de jeu dans l'appel de Cthulhu ? Le compteur ? Non, comment il s'appelle ? Il a un autre nom.
Le compteur, c'est un vampire, je crois.
J'ai fait qu'une seule partie, donc je suis pas
vraiment la référence. Et pareil, il a un nom particulier. Bon, Le maître des arcanes, non. Ah, je sais plus.
Le zététicien.
A fait un jet, San. Donc, du coup, il, en général, le maître de jeu, lui, il connaît le scénario, donc c'est normal qu'il l'ait à découper. Là, il y a toujours quelqu'un qui en sait un peu plus que les autres quand même, et c'est souvent la personne qui lit et qui apporte. Et en même temps, c'est nécessaire, parce que comme ça, il se souvient qu'il a découpé un truc et il a hâte de les donner pour voir le contenu. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose de logique là-dedans.
Et voilà. Et j'invite vraiment les auditeurs, c'était moi qui étais du coup le lecteur de, pour cette partie-là, à vous découper les aides de jeu, vous faites en sorte de ne pas trop les voir, hein, mais par contre, vous ne lisez pas. Parce que le fait de le découvrir avec tout le monde, ça rajoute quand même une grosse part de plaisir. Et des jurons que tu vas te prendre de manière à distance, un peu comme je l'ai fait, en mode « Ah !» C'est...
Alors après, pour l'avoir fait avec encore une fois Michel, Tiffen, Lulu et Quentin, j'étais meneur de jeu vraiment. C'est-à-dire qu'ils jouaient eux et moi, j'avais les aides de jeu, j'amenais le scénar et du coup je jouais les méchants. Bah en fait, tu prends beaucoup de plaisir aussi.
Oui.
Voilà.
Tu te retrouves en tant que MJ.
Voilà, t'es MJ et tu vois les autres s'amuser. Alors est-ce que j'ai pris beaucoup de plaisir parce que je suis l'auteur de la campagne? Sans doute, ce serait peut-être moins rigolo.
Non, pour avoir joué à des jeux qui ne sont pas les miens et être un peu en mode justement celui qui arbitre ou celui qui en tout cas va aider à que la partie se déroule mieux. Genre une partie d'Unlock que tu as déjà fait, que tu as présenté Unlock à quelqu'un. C'est plaisant d'être là, de voir comment les gens vont réagir au jeu en disant d'accord. Est-ce qu'ils vont réagir de la même manière ou des fois, des fois ça va être oui, des fois ça va être différent. Mais il y a quelque part un plaisir de déjà savoir un peu ce qu'il y a et de voir comment les joueurs vont réagir. Alors c'est sûr, quand t'es créateur, ça fonctionne, mais ça fonctionne aussi quand t'as fait la partie, mais que t'es pas le créateur.
Il y a un autre truc aussi, c'est que là, dans Donjons et Domino, il y a beaucoup de charges quand même collectives. Le dé des méchants, le déplacement du boss, le placement des petits pions verts, le rappel de l'ordre des tours. C'est tout con, mais le nombre de fois où Johan ou Valentin, vous étiez en train de dormir au fond de la classe, « Eh oh, c'est à vous de jouer !» Avec Jérémy, nous, on était au taquet sur les tours de jeu, mais ouais. Et bah ça, le rappel des tours de jeu, c'est une charge cognitive.
C'est quand pour ça que tu 5... nous punis.
Tout à fait. À la fin, je tape avec la baguette en bois. Mais tu vois, quand il y a un cinquième joueur, un maître de jeu, en fait, un maître de cérémonie, bah c'est lui qui rappelle les tours de jeu. Et donc, du coup, les joueurs n'ont juste qu'à prendre du plaisir. Moi, j'ai vu Michel, Tiffen, Quentin, Lulu, ils ne sont pas pris la tête sur l'aspect technique du truc. C'est moi qui lançais les dés, c'est moi qui disais. Et au final, ils étaient totalement concentrés, du coup, sur la partie. Et tu vois, moi, à force de faire ce jeu, c'est à force de se demander si ça vaudrait presque pas le coup, en fait, de te dire, bah, y a un maître de jeu exceptionnellement dans ce Donjon et Domino. Il lit toutes les aides de jeu, il sait tout comment ça va se passer, etc.
Je pense que c'est pas une obligation, mais c'est toujours plaisant quand c'est possible. Mais faut pas que ce soit une obligation, parce que c'est toujours sympa aussi de découvrir ensemble une partie.
Je pense.
C'est juste que, par exemple, si on fait une campagne de Donjon et Domino Toulouse, et que tu veux en refaire une campagne, là tu dis, bah, comme je connais, je ne vais pas avoir le même plaisir d'être en tant que joueur, mais du coup, je peux vous accompagner. Pour vous, ça sera facilité. Et moi, j'ai passé un bon moment à découvrir la partie avec vous, et faire en sorte que pour vous, ça se passe au mieux. Et du coup, voilà, on va passer tous une bonne soirée.
Et là, tu vois, j'aurais pu faire ça, dans la mesure où c'est moi qui ai écrit, c'est moi qui ai préparé. Mais en fait, je n'avais pas envie, parce que je voulais voir justement ce qui se passe quand,
en tant que joueur.
Voilà, en tant que joueur. C'était pas animateur cette fois.
Après,
Johan.
Le fait d'avoir aussi un animateur, il y a quand même une partie des mécaniques qui peut potentiellement être estompée. J'entends par là la venue du Minotaure. Avoir une personne qui va guider les joueurs dans leur la façon pose, de jouer, dans leur façon de gérer le tour, etc.
Alors, ça... tu peux expliquer comment il vient le Minotaure dans Cthulhu, dans Donjons et Domino?
Même dans Donjons et Domino traditionnel, déjà. Une fois que la dernière salle a été, du moins une fois que la dernière carte était retournée, s'il n'y a pas de boss, on part du principe que le moindre fait de jeu, donc la moindre erreur de jeu, est puni. On fait apparaître le Minotaure.
Un dé cassé, un dé qui roule trop et qui défonce le plateau.
Voilà, une erreur de
une
cours
règle
de jeu,
oubliée.
Une règle oubliée. Comme on a fait le fait d'oublier de mémoire, on avait oublié peut-être une case pour les méchants, je ne sais plus c'était quoi.
Mais oui, non, c'est le dé de San.
Exactement, un jet de santé mentale qui avait été oublié.
On a oublié le dé de jet de San. Ah bah ça fait apparaître le Minotaure. Voilà. Ah bah quelqu'un est déjà visible.
Voilà.
Et les fameux...
on passe une bonne soirée.
Et mon cauchemar a commencé.
C'est d'où les fameux jurons dont je parlais tout à l'heure, où arrive un moment où on lit qu'effectivement, le Minotaure, alors qu'on est au tout début de la partie, on est au deuxième tour pour être précis, on nous indique que cette règle qui normalement n'apparaît qu'à la toute fin pour mettre un coup de pression final, en fait, le coup de pression final est là dès le début, en fait.
Mmh, bah oui.
Et ça, c'est mine de rien, ça rajoute une... comme je disais, une pression, mais surtout un stress et une charge cognitive supplémentaire. Que, du coup, on a tellement été saturé que nous, on a fait des erreurs et du coup, c'est arrivé. Par contre, une fois le Minotaure arrivé, personnellement, ce côté-là a complètement fondu pour moi. Je ne sais pas si ça a été pareil pour vous.
Mais du coup, la peur est liée au Minotaure. Elle n'est plus liée au stress de faire une erreur de jeu. Ce qui est peut-être mieux, finalement. Elle est fictionnelle, elle est plus méta.
Oui, mais ça reste plus rationnel. La peur de... Comment ça s'appelle de l'erreur de jeu, c'est là où je trouve que c'est plus méta, en fait. Parce on n'a pas l'habitude dans un jeu...
C'est vrai que vous avez l'air tous paniqués à ce moment-là, non ? De dire, faut pas qu'il y ait une erreur, quoi que ce soit. Ouais. Je suis là, mais ça casse pas. Mais... voilà. C'est pas grave, on fera pas d'erreur. Je sais pas, j'ai peut-être été trop
confiant. Le Minotaure n'est géré que par des règles de jeu. Et du coup, ça, on peut l'anticiper, on peut le faire. Là, le fait d'avoir un dé qui, du coup, se met un peu de travers, du moins, se casse, ça, on ne l'anticipe pas. Et
moi, j'adore ce truc.
Pour moi, c'est beaucoup plus... ça fait plus partie du... Comment... du folklore, du...
C'est,
voilà, t'as l'esprit qui t'a fait faire le dé... Ou comme on peut voir dans les films, quand on lance une pièce et qu'elle tombe sur la tranche, là, c'est pareil. En fait, tu peux tomber sur le truc inattendu ou tu peux dire... Hey, là, le gros
dé cassé, il peut tellement arriver souvent dans une partie, de toute façon. Ou le dé qui tombe par terre. Ça arrive une partie sur deux, limite.
Ouais. Là, je trouve qu'on aurait pu prendre cette règle un petit peu plus au sérieux qu'on l'a fait là. Mais on a fait une erreur tout de suite. Donc, on n'a pas pu profiter de cette ambiance. Il y a eu juste un tour, il y a eu trois tours de jeu, je crois, où ça a été le cas et où on a pu profiter de cette ambiance un peu stress de l'erreur de jeu et tout ça. Mais sinon, effectivement, on a très vite fini. Et là, moi, j'en arrive à un point essentiel de cette partie. C'est qu'en fait, on était en temps limité. Et parce que comme on avait promis à Jérémy qu'il pourrait partir tôt ce soir...
C'est mal
on
parti.
Était en temps limité et en fait je me rends compte que Donjon et Domino et Cthulhu, il faut pas le faire en temps limité parce qu'en fait ça fait qu'on est stressé, on fait n'importe quoi, t'as zappé des trucs, là par exemple le fait que je te donne le truc direct, je te mette dans les pattes le texte sans que t'aies pu le lire avant, ça nous a tout de suite mis dans une position
où t'as été encore plus vicelard. C'est que je suis arrivé, il y avait un micro de poser et j'ai même pas eu le temps de le poser.
C'est clair. Ouais, et donc ça joue quand même sur l'ambiance de la partie.
Ouais, il y a d'autres choses aussi. Ça veut dire aussi que ça fait un certain nombre de semaines. Moi personnellement, j'ai pas fait une partie de Donjons et Domino. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde ici, mais le fait aussi de dire il faut se rappeler les règles de base, parce que bien sûr le jeu s'appuie beaucoup sur les règles de base. Il faut bien sûr jouer au jeu de base pour déjà maîtriser les règles du jeu de base, pour ensuite pouvoir bien profiter de l'expérience Toulouse Donjons et Domino.
Je suis d'accord.
Mais déjà donc à cet aspect là. Et un autre aspect qui, à mon avis, va être un grand sujet de conversation, c'est-à-dire que du coup, il y a cette notion de roleplay. Et cette notion de roleplay, on va jongler, j'ai mis dichotomie cognitive, entre notre partie du cerveau qui va être en mode roleplay, univers, et notre partie de notre cerveau qui fait « Attends, on va être plus rationnel, on va plus être dans les stratégies, stats, et les choses comme ça. » Et donc, il fallait jongler avec ces deux choses-là. C'est sûr, si tu multiplies les chances d'oubli, en fait. Parce que tu dis, il faut que je sois dans cet aspect-là. Ah oui, attends, on revient dans cet aspect-là. Il faut que je revienne dans cet aspect-là. Ah oui, attends, il faut que je revienne dans cet aspect-là. Moi, ça a joué, en tout cas. Moi, clairement, c'est quelque chose qui a joué. Et du coup, ça peut amener à faire un oubli. Alors, dans un jeu classique, c'est pas grave, on revient en arrière. Là, dans ton jeu, c'est... Ah oui, mais attention, c'est puni par l'arrivée du Minotaure. Et là, tu fais... Ah ouais, donc là, la pression se met. Mais parce que, autre erreur, scénario zéro... On avait l'habitude avec le jeu de base que le scénario 0, c'était un deck d'additiel, on le passe très vite pour vite arriver au scénario 1.
Ah.
Là, le scénario 0, on l'a pris un petit peu à la légère, et puis en fait, on a vite compris, déjà avec la règle du Minotaure, mais même par la suite, Ok, en fait, on est déjà dedans et on l'a déjà trop pris à la légère. On a perdu des points de vie bêtement et ça va nous faire mal, quoi.
Ah oui, c'est sûr. Hein, ouais.
Et d'autant que le début du scénario ne te prépare absolument pas à la suite. J'entends par là, vous allez me dire si vous êtes d'accord, Valentin et Jérémy. Quand j'ai vu l'introduction, donc on commence par une salle obligatoire. Et là, c'est là où arrive cette fameuse scène de... On nous donne nos feuilles de personnages complètes, donc avec nos caractéristiques et le background qui va avec. Et d'un coup, on nous dit « faites du roleplay ». Et là, une fois qu'on a commencé à être dans l'échange d'informations, etc., je me suis dit « ok, le premier scénario, ça va poser l'ambiance, ça va vraiment expliquer l'univers ». Et du coup, les salles qu'on va découvrir par la suite, parce que je ne voyais pas comment... Pour l'instant... partait du principe que tu n'allais pas rajouter des règles dans les couloirs traditionnels, mais uniquement dans les salles. Donc je me suis dit, ça va être uniquement qu'on va dévoiler les salles, qu'il va y avoir du background qui va se rajouter. On va en apprendre un peu plus sur la trame de fond de cette famille, etc. D'ailleurs, je suppose que tu es aussi inspiré de Shadow Island.
Ah oui, bien sûr.
Voilà.
C'est l'OST qui est conseillé pour jouer avec tous les donjons et dominos, c'est Alone in the Dark 4 qui se passe sur Shadow Island.
D'accord, oui, donc... Ouais. Shadow Island, je vais parler du GN.
Oui, mais bien sûr.
Ah, c'est aussi conseillé.
C'est la même chose. Le Shadow Island, le GN Shadow Island, il est totalement inspiré. La famille Morton qu'on joue dans le GN Shadow Island, c'est la famille Morton
de The Dark 4. Que la réputation à Alone in the Dark. Donc, ouais.
Et il y a même Eden Cho qui est un personnage de Alone in the Dark. Ouais. On a eu l'occasion d'en parler, puisque on a débriefé le GN Shadow Island.
Exactement. C'est d'où le fait que ça m'a fait penser à ça.
D'accord, oui.
Parce que je l'ai écouté deux fois pour.
C'est la même source d'inspiration, en fait. Les deux jeux ont la même source d'inspiration.
Je n'avais pas relevé qu'il y avait du.
C'est comme Nadia, le secret de l'eau bleue, Stargate et Atlantide de Walt Disney, le monde perdu, tu vois. C'est qu'en fait, comme ils s'inspirent des mêmes choses, bah, ils se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont les mêmes sources d'inspiration. D'accord. Et non pas parce que les uns ont copié sur les autres.
Ok.
Même si je suspecte quand même Atlantide et le monde perdu d'avoir un peu copié sur l'introduction de Stargate. Mais...
Bah, y a eu Stargate Atlantide. Donc.
Oui, il y a Atlantis.
Ouais. Atlantis,
ouais, tout à fait, ouais, complètement. Voilà.
Donc, oui,
pardon.
Pour revenir à ce que je disais, c'est qu'effectivement, tout le début en fait, donne l'impression que ça va être axé roleplay et qu'en fait, tu vas découvrir du background. Et d'un coup, tu te prends des claques à coups d'ennemis. Et je ne sais pas si vous avez ressenti ça, si vous disiez, en fait, après être sorti de la première salle, si vous disiez que vous alliez rencontrer.
T'as déjà eu de la chance d'être sorti de la grande salle.
Ouais. J'allais exactement dire ça, c'est-à-dire que l'expérience de jeu n'a pas été la même à partir de ça.
Oui, tout à fait. Alors Valentin, c'est peut-être le moment de nous raconter ta partie.
Ah, très belle expérience. J'ai évité toutes les cases de la pièce.
C'est ça.
Mais j'ai été très vite pris par le Minotaur. Après, j'ai fait une erreur de jeu dès le début, où j'ai mal interprété le texte de mon personnage. Mmh. Donc en fait, dès le départ, déjà, j'ai pas beaucoup de mouvements, j'ai commencé avec deux mouvements.
Ouais, mais c'est suffisant, hein. C'est vraiment suffisant pour ce scénario, hein, de un mouvement.
Okay. Ah oui, mais ouais. Mais je suis parti en faisant juste un pas.
Mais nous tous, on était à trois, donc on avançait beaucoup plus vite, et du coup, il avait du recul. Ah, attendez-moi.
Mais attends, oui, c'est Jérémy, ça. C'était à nous de nous mettre OK, en fait.
Bah oui.
C'est-à-dire qu'en fait, on a joué comme des pieds, cette partie, en réalité. Moi, j'ai dit en plus à Valentin, je lui ai dit, ah, t'as que deux en mouvement. J'ai regardé tout le monde, j'ai vu que tout le monde était parti en mode « Ok, on fonce
ouais, !» Mais c'est derrière. On était en mode
mais en
cool.
vrai, non, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut jamais faire ça. Et en plus, vu que c'est le voleur qui loot, c'est lui qui récupère nos objets. Donc, on est nul, c'est tout. On a été nul.
Scénario zéro, je ne dirais pas qu'on était nul, on était trop tranquille. On n'a pas vu le coup venir.
Ouais.
Tu vois, c'est comme si tu joues, je sais pas moi, un jeu simple pour enfants de 3 ans, genre Kirby, où tu perds limite jamais. Et puis on se dit, regardez, j'ai un nouveau jeu Kirby, mais en fait, c'est version horreur, interdit moins de 18 ans. Tu... Ah, j'étais pas préparé.
C'est un peu ça.
C'est vrai.
C'est exactement ça. Et donc, Valentin, à partir de là, donc toi, tu es resté dans la première pièce parce que tu avais mal interprété une des consignes de ton personnage. Enfin,
c'est comme ça que j'ai pris du retard, je vous ai jamais rattrapé, surtout. Ouais,
bon, il n'y a pas que ça. Au départ, en fait, quand tu fais tu as deux points de mouvement, tu as quand même un. En fait, tu sais que les ennemis frappent sur case paire, donc toutes les cases sont blanches, donc toutes les cases de cette salle sont piégées. sauf la case 1. Et toi, tu es resté toujours sur case 2 ou 6.
Ouais, j'ai très mal joué la partie,
oui,
c'est clair.
Je suspecte.
et on va pas se mentir, mais ce manoir, tu ouvres la porte principale, tu tombes sur une autoroute.
Oui, en plus, c'était une ligne droite. ouais. Alors ça, c'est normal, hein. En fait, c'est complètement normal. Statistiquement parlant, vu qu'on dégaine la grande salle, oui, au départ, c'est normal, en réalité. Et donc, c'est voulu, c'est complètement volontaire. D'ailleurs, tu as quand même plusieurs tours pour trouver une issue, parce que logiquement, le Minotaur n'apparaît qu'au deuxième tour des ennemis, puisque le premier tour des ennemis est safe. Parce que vous dites, oui, on n'a pas eu le temps de se mettre dans le bain et tout. Mais je vous rappelle quand même que je vous ai laissé un premier tour des ennemis où il ne se passe rien. Mais on l'a vendangé.
Bah, justement, on s'est dit, il n'y a pas d'ennemis dans cette partie.
Ouais.
T'es en train de présenter le truc, mais nous, enfin moi j'étais relax. Ouais, il n'y a pas d'ennemis, on a le temps de découvrir petit à petit. Il y aura peut-être un ou deux histoire de réapprendre comment on doit attaquer.
Ouais. Mmh. Ah non.
Non, c'est tout de suite.
Ah non,
mais c'est drôle, hein. C'est très Cthulhu.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'on arrive, oui, le manoir est lugubre, l'histoire est sombre, tu sais que ça va être merdique dans l'histoire. Mais t'arrives en disant oui, ça va, et puis tout de suite tu fais attends, il y a des choses que je comprends pas, il y a des morts, il y a des créatures et tout ça. Et
c'est un scénario de Cthulhu en accéléré.
Oui, et puis ça nous sort des sentiers battus. Et du coup, je sais que pour les prochains scénarios, le moindre ligne de texte, le moindre truc à la con. Voilà. Là déjà, moi, il y avait une chose que j'avais pas. C'est pour ça que je disais que c'était vachement bien qu'on avait chacun en fonction des actions qui est, enfin, des éléments d'aide de jeu qui nous étaient donnés. C'était individuel parce que moi, il y avait une information sur ce que j'ai écouté. Ou c'est pour ça. Fais attention. J'avais cru entendre qu'à la bibliothèque, il se passait un truc. Mmh. Moi, je...
T'entends ton micro, Yohan.
Ah, excellent.
C'est pas grave. C'est pas dramatique. Contrairement à la situation, voilà, de Valentin dans cette partie, bien entendu.
C'était pathologique.
Et du coup, j'ai relu deux fois dans ma tête ce qu'il y avait dans la bibliothèque pour ça me dire est-ce que j'ai raté quelque chose, parce que je savais que les ennemis étaient allés à la bibliothèque faire quelque chose. Et en fait, tu réalises non. Et en fait, au bout d'un moment, tu deviens parano en fait dans le jeu.
Bien sûr.
En tout cas, moi, c'est de cette manière que je l'ai ressenti, quoi.
Je voulais juste rajouter un élément, c'est que dans Cthulhu Donjons et Domino, quand on est au sol, quand on est à terre, on peut lancer. Quand on a plus de points de vie, quand on est tout blessé, on peut lancer un D6 et sur un 5 ou un 6, on se relève et on peut jouer son tour de façon normale. Heureusement qu'il y a cette règle, parce que sinon, Valentin, tu te serais vraiment fait chier.
Ah bah là, ouais, c'est clair. Hein.
Là, t'as pu quand même te relever 2-3 fois, je crois, au moins.
Mémoire, 3 fois, je crois.
Moi, pareil, moi, une fois, mais une fois mémorable. Je me relève et je loot de la potion et je reviens dans le... Ah, j'étais content. Senseiya. Ah oui, vraiment, j'étais heureux.
C'est vrai que c'était une résurrection.
Ah ouais, c'était une vraie résurrection. Je voudrais revenir sur cet aspect dichotomie de donjon et domino. D'abord, je voudrais te demander, Valentin, est-ce que tu as ressenti cette dichotomie entre d'un côté le roleplay, de l'autre le plateau?
Oui. Bah, dès le début, de toute façon, parce que vous êtes partis tous
en roleplay.
Ouais. Et moi, ça m'a perturbé parce que j'étais pas trop imprégné du l'environnement, mais c'était agréable.
Le roleplay, c'est une possibilité dans le jeu ou c'est une obligation dans le jeu?
Alors, c'est même pas une possibilité en fait. C'est une petite option de fond de tiroir.
Voilà.
Alors, si tu regardes bien le design du jeu, il est absolument pas fait pour faire du roleplay.
Mais c'est pour ça que je te demandais quelle est l'importance que tu voulais mettre pour savoir la suite.
Zéro récompense sur le roleplay.
Juste,
joues juste au début, t'as tes fiches de perso. J'ai même, enfin, je dis roleplay entre guillemets, mais le but c'est d'échanger les informations qu'on a sur les fiches.
Ok, parce que ça aussi c'est important, parce que les informations que j'ai pas demandé ou que j'ai pas voulu forcément partager tout de suite, parce que je ne savais pas si du coup ça devait être resté pour nous de manière secrète.
Le roleplay n'est pas important. Dans la base, je le mettrai.
De manière secrète, du style, il y a des informations cachées avec des objectifs, tu vois, différents ou quoi que ce soit. Non, on est d'accord, là, on est dans un jeu coopératif.
C'est un jeu de société, voilà. Un jeu de plateau, c'est pas un jeu de rôle.
Ok, et ouais. Que du coup, le roleplay est un petit bonus.
Voilà, c'est ça, exactement. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois pas jouer... Comment veux-tu jouer ton personnage dans un donjon aussi meurtrier? Je veux dire, comment tu veux jouer ton personnage?
La première salle, on a duré 15 minutes en roleplay.
Oui, mais ça, c'est normal. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est dit dans la base, c'est... pour cette scène, faites du roleplay. Une fois que c'est parti quoi.
Texto, quand chacun a lu son aide de jeu, une première discussion ou scène de roleplay peut commencer.
Entre guillemets, roleplay entre guillemets. Hein.
Exactement. Les personnages échangent des informations sur eux-mêmes ou sur l'étrange cas du couple Max Simpson. Finalement, quand chaque joueur joueuse estime avoir partagé suffisamment d'informations, les joueurs et joueuses peuvent enfin commencer l'exploration du niveau 0.
En fait, ça évite surtout de lire bêtement des fois son texte, mais juste dire on va essayer de faire vivre le texte qu'on lit.
Voilà. C'est okay. Pour les gens qui aiment bien le roleplay, ça permet d'en faire un peu, mais après, c'est un jeu de société en fait.
Ouais.
Et alors, juste un point par rapport à ce que tu appelles la dichotomie, moi, c'est pas... pour moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que tout est orienté vers le jeu de plateau, c'est un jeu de plateau. Et en fait, la dichotomie que tu ressens, c'est pas entre le rôle et le play, si j'ose dire, c'est pas entre le jeu et le rôle, c'est la surcharge cognitive des aides de jeu à côté. Parce que toi, tu joues Howard. Et Howard, il récupère des aides de jeu, c'est des bouquins. Donc en fait, ouais. T'as des textes qui sont... Et ça, c'est normal. C'est parce qu'en fait, du coup, le but, c'est que toi, en tant que joueur... En fait, pourquoi il y a des aides de jeu dans Cthulhu ? Parce que quand tu te fais chier, tu peux les lire. Quand t'as rien à faire, en fait, tu peux les lire. Sauf que j'ai l'impression que Donjons et Dominos, c'est tellement haletant en termes de rythme déjà sur le plateau que ça te laisse pas assez de temps pour les lire. C'est pour ça que j'ai dit, mais passe donc l'aide de jeu à Valentin puisqu'il a rien à faire. Tu vois ce que je veux dire ?
Et ça, je vais peut-être... C'est bon à savoir.
Mais oui, c'est ça en fait. C'est que les aides de jeu, en fait, alors c'est du lore qui peut avoir son importance quand même, parce qu'un élément que Johan vous a pas lu, c'est que vous pouvez trouver les objets en résolvant des énigmes. T'as lu ça ?
Je l'avais lu, que les... Ouais. Comment ça s'appelle ? Les objets, objets principaux, donc.
Voilà.
Bouclier,
tu vois, les informations cachées.
Épées, ne sont pas dans les poules d'objets trouvables.
Elles ne sont pas dans les cartes trésors. Elles sont en dehors du jeu et on les voit, là. Elles sont en évidence sur la table, en fait.
Ah oui, c'est marqué, vous avez perdu au jeu.
Ah oui, bah effectivement, j'ai perdu. Ouais. Ouais. Tu vois, comme quoi. Ça, c'est une règle qui s'applique très facilement, celle-là. Alors tu vois, il y a un moment donné où c'est écrit, regarde là ici, quand les mots botte, épée ou bouclier apparaissent...
En majuscule, en résolvant une énigme ou quand c'est clairement spécifié après les défaites d'un boss, les joueurs peuvent s'emparer de la carte correspondante et la confier au personnage de leur choix.
Voilà. Okay. Donc si tu... Donc, théoriquement, la résolution d'énigmes doit t'amener à recomposer des mots en majuscule qui vont te permettre d'obtenir...
J'ai pas vu ça comme ça. Voilà. Effectivement. Sinon, effectivement, je l'aurais lu. Mais je partais du principe que ça pouvait être écrit en gras sur les. Et c'est vrai que ça ne me donnait pas l'impression.
Mais oui, aussi, peut-être. Mmh. Peut-être aussi. Mmh. Et alors, rassure-toi, Johan, dans tous les cas, quand il y a une énigme ou un truc comme ça, si à un moment donné, il y a une petite étoile avec écrit, si vous ne trouvez pas la solution. Vous pouvez aller voir la solution, mais dans ce cas-là, si vous voyez la solution et si vous découvrez comment faire, bah vous ne prenez pas la carte. Mmh. Donc en gros, tu as toujours des sauf-conduits en mode, voilà, si vraiment il y a à un moment donné les joueurs sèchent sur un truc, ils peuvent toujours passer au-delà et avancer quand même. Donc, ça fonctionne. Yo, tu veux l'ajouter à fond ?
Oui, concernant les énigmes, justement.
Ouais. L'enveloppe.
L'enveloppe et pas peut-être que, ouais. Mais surtout en fait, par rapport au background des personnages. L'univers a l'air d'être extrêmement fourni. Et donc, dans le cas où des personnes n'ont pas vraiment envie de faire de roleplay et ne font que lire leur feuille de personnage, les joueurs auront du coup les informations complètes.
Absolument.
Dans un cas comme nous, on a fait, où on aura parfois des bribes d'informations, j'espère par contre que ça n'impactera pas des énigmes. On va dire critiques.
Non.
Non, il n'y a pas.
Mais non, mais est-ce que le jeu est pensé pour être joué tout seul ? Yo.
Ouais, mais quand tu joues tout seul, t'as accès à toutes les informations.
Et justement.
Oui.
Donc ça veut dire que l'énigme reste énigmatique même si t'as toutes les informations.
D'accord, ok. C'est pas. Ouais, mais ça aurait pu être de la déduction de. Ah ouais.
Non.
Mais attends, il y a une seringue qui a utilisé à ce moment-là.
Il y a un truc aussi, c'est que vous surinvestissez la dimension rôle parce que vous êtes des rôlistes.
Ah bah... parce qu'on est à côté de Romaric Briand.
Oui, oui, non, mais bien
tu
sûr.
Tu vois, si c'était mon jeu, tu fais, bah oui, c'est un jeu de société. Si c'est le jeu de Romaric Briand, qui rajoute du roleplay, oulala, attention, on est dans la version Triple Sky 3.
T'as trop raison, parce que quand toi, dans Les Sorcières de Medavie, tu rajoutes des éléments de background comme ça, personne ne va chercher des trucs alambiqués comme ça. C'est vraiment parce que c'est un de mes jeux. C'est rigolo, ça.
Ouais, bah,
c'est super intéressant.
Je me suis dit, ça y est, il mélange son jeu de société à sa passion du jeu de rôle, il va faire les deux en même temps.
Oui, oui, bien sûr. Alors que pas du tout, c'est un jeu de société. C'est vraiment un scénario de donjons et dominos pour un jeu de société, etc.
Mais tu sais que moi, je m'attends même à un moment de temps, à ce qu'à un moment de temps, on ait une énigme qui arrive, qui va nous faire faire... taper une adresse internet et que là ça va dire
oui mais ça c'est possible ça c'est pas du jeu de rôle c'est plus proche de l'escape est-ce que l'escape game c'est du jeu de rôle tu vois
ouais mais
Ça ah ben
tu dépends comment tu l'intègres comment tu le joues
moi c'est plutôt pensé comme une soirée enquête en fait ce donjon et domino c'est un livre dont vous êtes tu vois c'est plutôt pensé comme ça
ouais mais carrément ouais. Oui, c'est une couche de narration.
Mais c'est intéressant de voir d'avoir vos retours là-dessus et c'est très 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 intéressant. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cet aspect de la dichotomie que tu as ressenti, qui est peut-être lié aussi au personnage de Ward particulièrement, du fait d'avoir beaucoup d'infos, etc.
Est-ce que puis même je te dis le début de replay qui était très très important. Après c'était pour expliquer justement l'erreur qu'on a fait pour avoir le Minotaur, on s'est tapé le Minotaur, on disait, attends, on était en phase roleplay un peu, pour moi on était encore dans le oh, on est tranquille et tout, et puis pouf, on s'est fait avoir quoi. Et c'est là que justement on a pris le jeu un peu plus d'ailleurs en mode jeu société en disant faut qu'on avance, il faut qu'on explore, il faut qu'on calcule les positions par rapport au Minotaur, le boss arrive, donc voilà, là on était plus dans le donjon et domino classique. Ouais. Mais toute la première partie, je me suis dit, oula, faut qu'on jongle avec ces deux aspects-là. Mais je suis d'accord avec toi qu'à la fin, le roleplay, c'est complètement effacé.
C'est pas possible. Il n'est pas récompensé. Si encore il y avait des points pour le roleplay, je ne dis pas, mais en plus...
Si tu as des objectifs cachés pour les personnages. Mais c'est bête ce que je dis. Encore une fois, je me fais avoir parce que c'est Romaric Brillant, j'ai pas réfléchi. Parce qu'on peut jouer tout seul à ce jeu-là. Donc avoir des objectifs cachés dans un jeu, on peut jouer tout seul, c'est débile.
Mais c'est vrai que les gens qui ont joué à Vademecum, par exemple, vont peut-être avoir un point de vue.
Exactement, tu me donnes des aides de jeu différentielles. Ouais. Chacun a son aide de jeu. Le pire, c'est que je pensais, c'est Vademecum 2.
Je m'en suis douté. Je m'en suis douté que tu t'es dit ça. Non, pas du tout. On est vraiment sur quelque chose de très modeste du point de vue du jeu de rôle. Ce n'est pas un jeu de rôle et il ne va pas être estampillé jeu de rôle. C'est un scénario pour Donjons et Domino qui est un presque jeu de rôle. Je le présente. Mais ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, j'ai été marqué parce qu'au début, du coup, comme on était dans le roleplay, machin truc, Valentin, j'ai vu ça le dérangeait en fait. Il aime pas ça. Il a pas envie de roleplay. Et je lui ai même dit, mais vas-y, mais lis ta fiche en fait. Peu importe en fait. C'est pas important. Il faut pas se fixer des. Faut pas attendre de ces joueurs un truc de fou. C'est fait pour jouer avec des gens qui aiment le jeu de plateau et uniquement le jeu de plateau et qui sont pas familiarisés avec une expérience théâtrale ou je sais pas quoi. Le but là, c'est d'explorer des. En plus, vraiment, encore une fois, le jeu pousse même pas au roleplay positionnel parce que théoriquement. Le guerrier, il devrait rester... Alors, si on prend les personnages, le guerrier, c'est censé être le protecteur un peu paternaliste de Ward. Il devrait rester à côté de Ward. Mais c'est pas possible.
Ouais, c'est vrai que du coup, en termes de roleplay de jeu, ça tient pas. Moi, pareil, je devrais rester avec la voleuse toujours un peu pour le
pour la draguer, tu peux pas le faire. Donc, en fait, tout ça est cosmétique. Et les gens, en fait... Les gens y investiront ce qu'ils voudront et quand ils auront l'occasion de faire une scène, tu vois, où à un moment donné Roger est devant Howard, il dit, passez devant Monsieur Howard, ils vont le faire, mais c'est tu vois, c'est juste de la couleur.
Du coup, j'ai une question pour Valentin. Moi, en tant que joueur, où on a fait un peu de roleplay, ça me dérange pas qu'un joueur ne fasse pas de roleplay. C'est quelque chose qui choque pas parce que je peux comprendre effectivement qu'on n'a pas envie de rentrer là-dedans. En plus, tu viens de le dire, c'est pas un enjeu dans le jeu.
Mais
pour toi, de ton côté. Est-ce que tu dis c'est dérangeant que les joueurs fassent du replay est-ce que tu as senti une pression sûrement peut-être je sais pas est-ce que tu as senti une pression ou même si on se dit non mais en fait il a pas de pression est-ce que c'est quand même quelque chose qui pourrait te déranger qu'on fasse du replay
en soi ça me dérange pas forcément parce que je trouve ça agréable de suivre quand vous étiez en train de faire le roleplay. Là où ça m'a mis la pression, c'est qu'en fait, l'univers de Cthulhu, j'ai essayé de lire un bouquin, par exemple, mais où le jeu, je connais pas du tout. J'ai très du mal avec le monde mondain, entre guillemets, journaliste, tout ça. Quand il s'agit de jouer un roleplay avec un guerrier ou un machin.
Ta gueule, Cthulhu, il m'en revient pas.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est assez. Mais en fait, c'est le monde de Cthulhu, moi, par exemple, à me proposer à jouer.
T'aurais dû prendre le guerrier, Valentin. T'aurais dû prendre mon personnage.
Ouais, voilà, faire le gros.
Il dit rien,
ouais, voilà.
Blablabla. C'est facile à jouer.
Mais tout ce qui est monde un peu mondain, un peu bourgeois, tout ça, ça me perturbe.
Mais et c'est après, bien après... que ça te perturbe. C'est ouais, bien. C'est une bonne chose.
Mais en soi... Mais en soi, j'avais pas non plus une grosse pression, mais c'est au moment où tu m'as posé la question, là je me suis dit merde, tu dis quoi effectivement, bah, du oui. coup.
Est-ce que je voulais te lancer justement en disant bah moment de prendre la perche.
Donne-nous les secrets.
Mais au final, j'ai réussi un petit peu à rebondir, je me suis dit bon bah c'est vrai que c'est marqué à la troisième personne, je vais lire à la première. Puis au final ça s'est bien fait, mais ça c'est.
Mais c'est bien, rien que pour nous, mais même pour les joueurs à qui ça peut arriver dans ce type de jeu. De savoir dire, est-ce que le roleplay peut être dérangeant quand un joueur n'aime pas le roleplay, mais il dit oui, mais moi j'aime bien suivre l'histoire des autres quand même, moi je suis pas obligé d'investir cette partie-là. Moi je me suis dit, ça me dérange pas, si toi ça te dérange pas, ça veut dire que si on refait une autre partie, on pourra s'amuser à faire du
roleplay. Ah oui, moi enfin, je. Alors, au contraire.
Je sais plus qui à la partie avec Tiffen, Michel, Quentin et Lulu, il y en avait une ou un, je sais plus, qui justement, comme Valentin n'aime pas le roleplay, il a lu sa fiche à tout le monde.
Quel personnage il ou elle avait
C'était... je sais plus, parce que si je le savais, eh ben, je pourrais te dire qui c'était. Je me demande si c'est pas la journaliste aussi, d'ailleurs.
Et justement, je me suis posé la question, et t'es peut-être tombé sur le pire personnage pour ouais. faire du roleplay. On a tous les trois un lien entre nous, sauf toi qui as juste une amourette avec Howard.
Ouais, c'est ça.
Et ça, pour placer la réplique et dire bah, « Moi, je suis là que pour ça. »
Ah non, attends. Elle a fait des recherches sur l'île. Elle connaît le passé de l'île, en gros. Ouais, t'as ouais, pas besoin mais... d'être copain avec quelqu'un pour dire que t'as fait des recherches sur
Howard,
l'île.
Howard, et là, c'est son domaine qu'on lui a légué.
Ah oui, d'accord, je vois ce que tu dis. Oui, t'as moins de background que les autres. Oui, ok.
Tu étais le garde-chasse, tu as toujours été sur l'île.
Ouais.
Moi, c'est.
Il n'y a rien sur
l'île. Le médecin de la famille. En fait, on a fait un rôle plus tout autour des parents, mes parents. Et du coup, en effet, on est trois à connaître les parents. Et
voilà,
la famille,
et on a tous un métier sur l'île, en fait. Ou du moins, une raison d'être sur cette île-là. À part toi. Qui débarque avec Howard.
Mais justement, c'est le rôle le plus simple à faire. Il pouvait juste répondre, bah, moi j'accompagne Howard, point.
Ouais.
Bah, tu vois, c'est
ouais.
sûr, c'est...
Mais dans ce cas-là, oui. étant donné que là... Ouais, mais en fait, ça c'est bien, pour moi, quand t'es habitué à faire du roleplay en improvisation, où tu sais que voilà, tu peux te permettre de ne pas donner d'informations. Là, Valentin, arrête-moi si je me trompe, mais tu nous as vu donner des informations sur nos feuilles. On avait tous plus ou moins une accroche pour pouvoir lancer la discussion là-dessus. Moi, c'est pour ça que je me tournais toujours vers toi.
Ouais.
Mais parce que tu étais la personne que je voyais le plus sur l'île. Parce que moi, j'ai soigné les parents de Ward.
Il n'y a rien sur l'île dans mon état de jeu.
Moi, je me suis posé la question,
ouais,
effectivement.
Mais,
me dire, oui, mais il faut que je... Est-ce que dedans, il y a un truc... Ou je suis obligé de le dire, sinon on lance pas le jeu. Je me suis posé la question à un moment, je me dis, ça c'est des trucs que je vais lire, je vais être au courant. Mais est-ce que les personnages autour de moi, faut que je leur balance en 1501, ouais. voilà, massacre
bah,
des tribus.
Bah voilà, mais c'est ce que t'as fait.
Je l'ai fait, mais
ça c'est le plus important, je le dis.
Ouais, c'est ce que j'ai senti, ouais.
Donc, je dirais même en règle générale, est-ce que c'est bien de prendre des prises de notes parce que l'histoire va prendre une importance où c'est vraiment que de la couleur. On se dit, on pourrait même limite pas suivre l'histoire à faire que le jeu, ça serait pas drôle. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça? Ou leur dire, c'est quand même bien de prendre des notes, de relire les choses, genre à chaque partie, d'essayer de se faire un résumé de la partie précédente.
Bah écoute, tu vas voir.
Ok. Parce qu'il y a de la famille, hein, on commence quand même avec pas mal de personnages. Hein.
Ah oui, bah après, pour toi, mais t'as tout l'essentiel est donné aux joueurs, et les aides de jeu, vous allez les garder d'une partie à l'autre.
Ouais, mais ça c'est très bien, ça va permettre de faire des résumés si on se voit pas d'ici un mois, on fait, bah attends, on relit un peu, on prend 10 minutes à regarder nos trucs.
Et puis plus ça va, plus vous allez avoir des infos, etc. Et en fait, à la fin, la partie de Cthulhu, ça se transforme toujours en des joueurs qui compulsent des notes en fait et qui se partagent des notes en mode tiens regarde j'ai ça, est-ce que tu vois des infos machin, et c'est comme ça que ça doit se jouer en fait.
Bah ouais, bah vivement une partie de Cthulhu ouais. ensemble alors.
Parce que t'as jamais joué comme ça?
Bah j'ai fait qu'une partie vite fait, c'était pour voir plus le système que faire un vrai scénario, une vraie campagne, mais comme j'aime bien l'univers, là ce que tu me proposes, tu me vends du rêve.
Ah ouais, mais moi c'est ça que j'adore dans Cthulhu.
Tu prévois.
Tu prends n'importe quelle campagne de l'appel de Cthulhu, que ce soit la campagne de l'Orient Express, les masques de Nyarlathotep, et même dans une moindre mesure, mais également énormément, la dernière là, qu'on a joué avec Adrien et Natacha sur la Chine.
Les supplices, là, les cinq supplices.
À la fin, tu finis avec un classeur. Enfin, je veux dire que Cthulhu, ça se joue, chaque joueur a sa fiche de personnage et un classeur pour trier ses trucs. Oh, à la fin, t'as des coupures de presse, t'as des photos, il y a certains trucs que tu dois regarder à la loupe pour voir des indices qui vont te permettre de faire un lien avec une coupure de presse. Enfin, c'est une soirée, c'est une enquête, quoi. Et là, un sixième des aides de jeu que vous aurez à la fin de la campagne, quoi.
Ok, il y a combien de scénarios?
Il y en a 5, il y en a 6, si on compte le niveau 0.
Tout le 6ème.
Ouais. Donc, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Alors, Johan, on t'a interrompu là. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport au fait que le personnage de Valentin ne connaisse pas suffisamment, peut-être, ou pas assez les autres personnages du lien, peut-être.
Oui, parce que moi, j'étais la doctoresse qui a soigné les parents d'Howard.
Ouais.
Donc déjà, j'avais une accroche pour parler directement avec Howard en disant « Écoute, Howard, tes parents n'allaient pas bien ni rien. Ouais. Toi, tu étais garde-chasse sur l'île, donc il y avait de fortes chances que je te croise quand je viens voir les parents d'Howard. Ouais. Donc, je sais que tu es quelqu'un sur l'île, d'où le fait que je t'ai posé des questions. Est-ce que tu as vu leur état se dégrader? Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as vu cela? » C'est à toi que je le posais et non à Howard. Ouais. Howard, vu qu'il est là sur l'île, on peut supposer qu'il te connaît, il peut supposer que je sais que j'ai soigné ses parents, etc. Ou même, vu qu'il sait que je suis la doctoresse qui a soigné ses parents, il est légitime de me poser des questions. Toi, tu pourrais très bien voir Howard pour lui dire « Écoutez, je suis content de vous revoir là, jeune maître, etc. » Moi, comme je le disais, on s'est peut-être croisé, tu as une accroche.
Oui,
toi, ma pauvre Elisabeth, donc Valentin,
mais au contraire,
à part Howard, c'est la seule personne à qui tu peux t'adresser.
Mais non, c'est complètement logique. C'est une journaliste. Ouais. Elle est là pour écouter.
Oui.
Elle n'est pas là pour...
Mais dans ce cas-là, on écoute quand tu ne vois tout le monde se lancer dans des tirades rôlistes et que toi, tu n'es pas à l'aise et que d'un coup, on te dit, t'as envie, en fait, de faire comme tout le monde. Après, je ne sais pas si c'est...
C'était pas le problème. Le problème, c'est que Valentin pensait qu'il avait éventuellement, sur sa fiche de personnage, une information indispensable. Oui. C'était ça, le problème. Donc
au final, j'ai lu.
Oui, mais très bien. Mais très, très bien, en fait.
Mais ouais, ça...
Vas-y, Valentin.
Non, au final, ça l'a fait. Il n'y a pas eu de problème particulier pour ça.
Enfin, moi, en tout cas, j'étais très satisfait que cette scène, à part qu'il y ait eu ce moment, effectivement, on a regardé Valentin en mode « Est-ce que tu as des infos à nous donner ?» etc. Mais la scène en elle-même, elle était suffisante, en fait. Elle était géniale. Et quand les joueurs estiment que c'est suffisant, et puis qu'ils en ont dit « si, paf, hop, le jeu commence, et puis c'est tout. Moi, je pense qu'il ne faut pas lier davantage, au contraire. Ça pousserait en fait à mettre encore plus d'exigences sur les joueurs. Or, j'en veux pas.
Oui.
J'en veux pas. C'est pas un jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu vois le point. Par contre, si ça peut amener des gens à faire du jeu de rôle après, c'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être que ce moment va particulièrement intéresser.
De manière à présenter, regarde, on va faire un peu de jeu de rôle là.
Voilà. Mais c'est exactement ce qui se passe avec l'œil noir. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec l'œil noir. C'est ce qui s'est passé avec le premier Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'en fait, c'était juste un jeu de société, entre guillemets.
Oui, et puis même les wargames aussi, où les gens se sont amusés justement à faire du roleplay avec les wargames.
Et j'attends pas mieux.
Comment est né le jeu de rôle?
Confrontation et Cadwallon, tout simplement.
Ah ouais.
De toute façon, c'est toujours la même chose. Mes jeux, c'est ça. Je te mets des dominos, des cartes dans les mains, et en fait, je t'invite progressivement à mettre du rôle là-dedans. Mais là, en l'occurrence, c'était pas l'objectif. Mais bon, voilà, ok. En tout cas, j'ai pris tout plein de notes par rapport à cette situation. C'était très intéressant, cette histoire de dichotomie et tout. J'ai tout noté. Donc, je réfléchirai à mes textes. J'ai noté notamment une réflexion de Valentin en cours de discussion qui est passée un peu inaperçue, mais que j'ai trouvé super intéressante. C'est « Il m'a suffi de transformer ma fiche en première personne ».
Oui,
t'as dit ça.
Oui, j'ai dit
je
ça.
Me demande si je pourrais pas transformer toutes ces petites fiches en première personne, et en fait, si ça se trouve, ce serait suffisant, peut-être pour aider. Voilà. Donc j'ai noté ça.
Alors je pense à ça, ouais, parce que c'est un peu les chroniques oubliées. Ah, t'as déjà le texte. Ce et, ouais.
T'as juste à le lire, en fait.
T'as juste à le lire.
Ils sont malins. Ils sont trop forts. Ils sont tellement forts. Bravo. C'est Black Book Edition. Hein. C'est Black Book.
Mais si. Je crois, j'ai plus souvenir.
Si. Très bien. Alors, on continue. Moi, j'ai dit ce que je voulais dire. Question. L'ambiance. Vous avez trouvé ça cool en termes
de... Moi, j'aime bien.
Ah oui, parfait.
Parce que l'univers me plaît, le jeu me plaît déjà de base, donc le mélange des deux me plaît.
Vous avez eu un petit frisson à un moment donné, vous avez eu l'impression d'y être.
Mais oui, on en a tous eu, on a entendu un bruit bizarre pour la partie.
Ah oui, exact, c'est vrai.
C'est vrai.
Et c'est vrai que ça nous a mis dans l'ambiance en plus. Alors, blague à part, j'ai trouvé que par rapport à toutes les parties que j'avais faites, c'était encore celle où il y avait le moins d'ambiance. Et je pense que c'était lié au rythme. On voulait aller vite et tout ça. Faut vraiment, la prochaine fois, il faudrait qu'on essaye de prendre...
Encore une fois, au départ, on l'a pris à la légère. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Exactement. Mais t'as mis la musique, je veux dire, c'est pas parce qu'on n'était pas complètement comme ça. Moi, dans ma tête, on y était.
Oui, moi aussi, je voyais le manoir et tout quand même.
Ouais.
Et question subsidiaire, les autres parties que tu as faites en playtest étaient à quelle heure? Est-ce que c'était en après-midi, fin de journée?
Non, j'ai fait tout. Donc la dernière fois avec Flavie et Cédric, on a commencé en fin d'après-midi, on a fini dans la nuit.
D'accord.
Oh, t'as des scènes de ouf. Et après on a été, parce que là pour l'instant ce niveau 1, c'est rien du tout, mais après on a fait des scènes mémorables, je vous les raconterai quand on les aura faites ensemble. Et sinon avec Quentin, Lulu, Tiffen et Michel, c'était en pleine journée. D'accord. Et l'ambiance y était, hein. C'était vraiment assez cool. J'ai vu Quentin plusieurs fois se retourner vers la musique en mode putain, mais fous les boules cette musique. C'était assez rigolo parce qu'à un moment donné il y a une musique où il y a des grognements dans la musique. Je crois que
quand tu parles d'ambiance, du coup tu t'attends à quoi précisément?
À ça,
avoir justement les boules d'une
un
musique,
un petit peu plus, ouais, un petit peu, ouais, non, en fait, alors... un petit peu plus de concentration. Je l'ai trouvé dissipé. Par exemple, un truc que j'ai pas trop apprécié, c'est le fait que le doublage canadien de Johan, tu vois, j'avais l'impression que les textes n'étaient pas lus suffisamment sérieusement. Tu vois, j'aimerais bien que les gens lisent les textes un peu plus sérieusement. Plusieurs moments, on s'est égaré, machin. J'aimerais bien que les gens restent dans la partie, essayent vraiment de vouloir vivre l'ambiance, de lire ces aides de jeu, de machin. Avec Tiffen, encore une fois, Michel, Quentin et Luce, ça s'est super bien passé. Ils étaient à fond dedans, même s'ils rigolaient.
C'est des rôlistes.
Michel, Tiffen... Oui. Lulu, non. Quentin, un petit peu, mais surtout en mode figurine et plutôt chronique oubliée et tout ça, je crois. Voilà. Donc, il y avait deux non-rôlistes, on va dire, et deux rôlistes confirmés.
Ok.
Voilà.
Bon, moi, en tout cas, dans ma tête, j'étais dedans.
Ouais, moi aussi. Alors, attention, c'est pas... Mais on peut être mieux. Ça peut être mieux. Et là, il y a eu beaucoup de lumière.
Et c'est
aussi
pour ça que j'ai juste fait pour la description d'un seul personnage avec un accent à la con. Ouais. Et le reste,
pas.
J'ai pas fait.
Faut pas.
Et,
faut
mais après, c'est surtout que je sais bien de par Trip to Sky notamment que toi, tu es très à cheval là-dessus.
Ah oui.
Et
toi, non.
J'ai tendance à très vite me dissiper quand c'est comme ça, d'autant plus en fin de journée. En fait.
Mais note bien, Yo, que ça n'a pas nué à l'ambiance pour autant. C'est-à-dire que même si j'ai regretté que tu l'aies fait, mais en même temps, ça marchait quand même.
Surtout qu'en fait, étant donné que je donnais les noms à l'anglaise plutôt que Roger, Roger, etc., c'est ça qui m'a donné l'idée en fait, de faire ça pour un truc.
Alors attends,
je me suis dit, oui, non, mais là, Yohan, non.
Il y a un autre truc aussi, c'est que tu as été rattrapé par les textes à un moment donné. Tu t'es pas rendu compte, et là, je suis très fier de moi en tant qu'auteur, c'est que tu t'en es pas rendu compte, mais en fait, au début, tu étais dans la déconne, et en fait, en lisant les textes, au fur et à mesure, plus ça allait, plus tu étais sérieux. Mmh. Et là, je suis sûr qu'on aurait enchaîné sur le scénario 2, ça aurait pas été la même. Et là, on aurait été dedans, j'en suis convaincu. Ça commençait déjà. À la fin, tu lisais les textes beaucoup mieux, tu étais beaucoup plus dans l'ambiance. La bibliothèque, tu l'as très bien décrite, etc.
Et d'ailleurs, je dois avouer une chose, c'est par rapport à... Là, je suis sur une formation spécifique au boulot où on étudie le code du travail, etc., ou des textes à la con. Et j'avais fait une réflexion à un moment de temps en lisant un texte du code du travail. Et je dis à la formatrice, ben là, je suis en train de lire le texte. Donc, je vous le dis à voix haute, mais en fait, je ne comprends pas ce que je lis. Donc, je lis le truc. Mmh. Et donc, il a fallu que je le relise derrière. Toi, on peut le lire à voix haute. Et tu as une écriture suffisamment fluide
Et t'as compris ce que tu lisais.
Concise. Exactement. Et ça,
c'est important, ça.
Merci beaucoup pour ce genre de texte.
Mais de rien.
Parce qu'il n'y a rien de pire que de lire des textes et qu'une fois que tu l'as lu...
Tu ne sais pas comment lire. Tu ne sais pas quel ton mettre.
Tu ne sais pas quel ton... Après, là, j'ai toujours trouvé exactement, je pense, du moins j'espère, avoir trouvé le bon ton, etc.,
oui,
les bonnes intonations.
À part, encore une fois, cette doublage canadien.
Oui, mais ça, c'était juste... ce fameux doublage canadien, c'était juste au tout début dans la description des personnages. J'avais pas, en fait, c'est surtout que j'avais pas vu que le texte allait avoir une si grande importance. Donc je me suis dit, ça avait juste la présentation des personnages, égaux. Et quand j'ai vu que, ah ouais, il y avait, d'accord, c'est très
c'est
verbeux derrière.
Le héros.
Donc effectivement, on arrête la déconnade et c'est juste, en fait, et c'est là que je.
Tu t'es fait
après
attraper.
Les... Oui.
Mais après, un texte de loi et Donjons et Domino,
oui,
c'est
mais...
aussi une autre complexité.
Dans, tu sais que ça m'est déjà arrivé de lire des règles de jeu,
ah
en
oui,
fait.
Et de pas les comprendre.
Et en fait, tu les lis. Et en fait, c'est pour ça qu'en fait, j'en viens à ça. C'est que j'avais exactement la même impression que de lire le code du travail.
Ah oui.
Tu lis le truc, mais...
T'es pas dedans.
Donc, mmh. Les joueurs autour, je pense qu'ils comprennent. Mais toi, tu as obligé de relire en fait intérieurement. Parce que c'est... D'avoir verbalisé à voix haute, en fait, tu bites rien à ce que t'as lu, quoi.
Moi, je pense qu'un texte lu sans tonalité, sans la bonne tonalité, tu comprends pas.
Ouais.
C'est un débat, hein.
J'ai noté, toujours en termes d'ambiance, que l'ambiance était arrivée au moment de la lecture de la règle du Minotaure. Avant, vous étiez extrêmement dissipé et tout, c'était n'importe quoi. Enfin, je sais plus. Il y avait des... Et puis, dès que la règle du Minotaure a été lue, bon, mais ça a posé le truc, vous n'êtes pas rendu compte. Tout le monde s'est tu. Il y a eu, à un moment donné, la musique est repartie, etc. Et on entendait beaucoup plus la musique que les joueurs. Vous n'êtes pas rendu compte, mais la règle du Minotaure, elle a calmé, mais bon. Direct, c'est marrant, ça.
Après, il y avait
premier tour des ennemis, en fait, car...
De
le vrai tour.
Ouais, parce qu'en plus, encore une fois, premier scénario, on s'entend que même s'il y a des ennemis, ça va être gentil. Là, tu nous fais attaquer. Tous les nombres pairs vont t'attaquer.
Non.
Ah ouais, ok. Ça fait beaucoup de cases.
Et c'est pas très méchant.
Yoann, de toute façon, je pense que c'était ça. Déjà, entre le fait de se dire que voilà, le premier scénario, on le fait à l'aise, et puis, bah, on était comme des gamins. Ah bah, c'est cool, on va faire du Donjon et Domino, en plus ça, sur du Cthulhu. En plus de ça, écrit par Rome. Oh bah, cool, on va découvrir un truc nouveau. Tout ça, tu nous teasais en disant que voilà, t'avais rajouté pas mal de petits modules, de petits éléments, etc. Donc, cool, on va faire une chouette découverte, etc. On était comme des gosses. Mais vraiment, en tout cas, moi, c'était ça, en fait. D'où le fait que j'ai peut-être lu un peu à la déconnade au début, que voilà. Et puis, effectivement, une fois que les choses sérieuses arrivent, tu dis, ah oui. Là, on va re-switcher vers le... on va mettre les neurones un peu en rang, parce que sinon, ça va devenir...
Mais c'est marrant, parce qu'effectivement, je me rends compte que quand on joue à Cthulhu avec Cédric et Flavie, mais pas uniquement, avec Tom et tout, enfin avec tous les gens qui viennent à la barre jouer avec nous à Cthulhu, même avec Adrien, Natacha et tout, on se marre parce qu'il y a la scène qui est caricaturale et tout, comme c'est expliqué dans la base de Cthulhu, Donjon et Domino, mais en fait, on joue vraiment à se faire peur. Il y a un côté, malgré tout, on est sérieux, tu vois. Et je sais pas comment le mettre dans la base, de dire, attention, le jeu est sérieux quand même. Enfin, tu vas essayer de...
Je sais pas comment je pense ça. Que c'est là, tu peux parler. Laisser la liberté aux joueurs, parce que tu auras toujours des joueurs qui auront envie de déconner, et bah, ils déconnent, c'est comme ça. Et des joueurs qui auront envie, justement, que ce soit un peu plus sérieux. C'est juste à dire, en fait, avec qui tu joues et comment on veut la jouer.
Oui, je suis d'accord.
Mais de toute façon, ton jeu, comme tu dis, on s'est mis dans l'ambiance tout seul.
Oui,
donc,
oui,
du coup, quoi faire ? Bah, faire justement ce que tu as fait. C'est-à-dire que tu mets des trucs en disant « Ah, c'est beaucoup plus lourd dans le propos,
ouais,
il y a du drama. » Et ensuite, tu as les règles. Je te dis, comme tu dis, peut-être le Minotaure, on ne l'a pas senti. Mais effectivement, si c'est un truc qui fait « Ah oui, attends, on ne rigole plus là. »
Je me dis quand même qu'une petite note pour dire au lecteur du texte de faire un effort sur la lecture du texte, de pas... Enfin, non, parce que ça mettrait trop de pression. Ouais, je sais pas. Bon, bref.
Non, mais je suis persuadé que le jeu va amener vers ça.
D'accord, ok. Bon, écoute.
Après, chacun sa dose. T'auras forcément des tables où ça va être du délire, mais parce que c'est comme ça qu'ils jouent, c'est comme ça qu'ils aiment jouer. Mais si t'as des gens qui aiment un peu, justement, Cthulhu, et qui prennent Cthulhu... Le plaisir de jouer de Cthulhu, ça va être sérieux. Ce jeu va amener à ça, parce que on sent une lourdeur dans cette histoire de l'île, de la famille. Je dis, comme tu dis, ce n'est que le scénario zéro. Et tu es en train de te marrer, les gens... Et là, tu dis, bon, bah, vu comment on a passé ce premier scénario, on va pas rigoler. Je pense qu'on va être vraiment dans le 1 dans le 2. Je suis quasi persuadé, c'est même sûr. C'est sûr de chez sûr.
On va voir. J'ai trouvé intéressant aussi dans vos retours de voir comme, en fait, c'est hyper important de connaître l'appel de Cthulhu pour jouer à cette base. Il y a plein de choses qui semblent évidentes pour moi en tant qu'auteur. Par exemple, je te donne un exemple pour que ce soit bien clair. Les gargouilles. Confrontés aux gargouilles, faites un jet de san. Ça, c'est évident que si tu... c'est évident que c'est quand le personnage les voit la première fois qu'il fait un jet de san. Parce que dans Cthulhu, c'est comme ça que ça marche. Et vous, du coup, vous êtes posé la question, qu'est-ce que ça veut dire être confronté aux gargouilles, Yoann?
Comme je disais, ça me paraît clair d'un point de vue... comment roleplay et background donc lié à l'univers.
Bah oui.
Mais dans la règle, ça ne m'était pas clair c'est du tout.
Bah
en
oui,
fait.
C'est ça que je trouve génial.
C'est
de voir que
tu enlèves la couleur de la gargouille. Ta règle n'est pas claire.
Non, je suis d'accord. Mais tu vois, ce qui est rigolo, c'est qu'elle est claire de mon point de vue parce que je connais très bien l'appel de Cthulhu. Mais en fait, objectivement, ouais. Elle l'est pas. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce playtest. C'est de voir comme les préjugés en fait, qu'on a... Et c'est pour ça que c'est hyper important la relecture et le playtest. Ça, c'est une démonstration, ouais. Tu vois.
Tu veux un autre exemple?
Ouais, je t'en prie.
Jérémy, 10% de 74. 3.
Bah, 7. 2.
10% de 50.
Oui, non. Voilà.
Dans la règle, environ... Donc, quand un personnage perd beaucoup de san d'un seul coup, environ 10% de son score, environ 10% de son score avant perte de san, soit 6 points perdus sur 60, 5 points perdus sur 50, il peut subir une folie temporaire. Là, tu nous parles de pourcentage. Un pourcentage, ouais. Pour beaucoup de personnes, c'est un produit en croix. Tu dis juste...
Je comprends pas ce que tu dis.
Quand un personnage perd beaucoup de san d'un seul coup... Autant que sa dizaine, tu simplifies le calcul, tu sais juste que tu prends la dizaine et go.
Ah oui, oui, c'est génial.
Parce que là, 10%, ça implique un produit en croix. Et là, on se retrouve dans ce que j'appelle régulièrement un jeu Excel, où c'est très bien quand le calcul est automatisé, ça donne le résultat direct.
C'est génial.
Mais si t'as pas des petites astuces mathématiques ou que t'as pas un minimum d'astuces mathématiques, c'est mort.
Alors,
le mec, il peut être bloqué avec ça, et la règle-là, il va la squeezer.
Je ne veux pas me faire gronder pour une règle qui vient de l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est du copier-coller de la règle telle qu'elle est dans la... Mais oui, mais évidemment. C'est-à-dire que là, une fois de plus, et c'est pour ça que tu as raison, Johan, c'est intéressant de voir comme ça, c'est une règle qui parle à la personne qui a joué à l'appel de Cthulhu, d'où la référence à l'appel de Cthulhu. On parle bien du jeu de rôle de Chaosium.
Ouais, mais même juste être à l'aise en maths, et qu'effectivement, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui ne sont pas à l'aise en maths. Quoi.
Oui, mais ça, tu vois, encore une fois, enfin bon. C'est non, un reproche que vous faites à Chaosium.
Oui, je suis d'accord. Complètement. Je suis d'accord. C'est un défaut de beaucoup de jeux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas accessibles aux gens, parce que forcément, il y a un aspect mathématique qui est caché, et qui peut faire mal. Alors, mais là, l'exemple est très bien en disant, il y a un problème qui était dans Chaosium, il vient de trouver une solution qui donne pourtant le même résultat, qui est déjà plus simple.
Alors attends, stop. Dans Chaosium, il est juste écrit ce qui est faire de pourcent. Il n'y a pas d'exemple. C'est moi qui ai rajouté la parenthèse avec écrit, si vous avez 60, c'est 6, si vous avez 50, c'est 5, etc. C'est-à-dire que c'est moi-même déjà qui ai fait un effort de pédagogie par rapport à la base de Cthulhu que j'avais. Donc, alors peut-être que dans
10%
les nouvelles...
sur des petits nombres en dessous de 100, quand t'as pas cette astuce mathématique où il suffit juste de prendre la dizaine pour avoir les 10%, c'est un cauchemar à calculer quand tu fais un produit en croix de tête. Hein, sur, non, pour des personnes qui sont pas à l'aise en mathématiques.
C'est ça.
Et moi, je suis le premier. C'est pour ça que je parle beaucoup de jeux Excel, parce que c'est des jeux où les mécaniques sont telles que si tu ne l'automatises pas dans un fichier Excel... tu perds la moitié de ton temps à faire des calculs à la con. Hein. Je te crois. Hein.
Juste que c'est marrant parce que la première fois que je suis tombé sur cette règle, je me suis fait la même réflexion que toi. La première fois que tu tombes sur ma règle à moi. Et donc c'est ça qui est important. Et donc moi je lui ai rajouté en plus un élément qui dit que donc si c'est 60 c'est 6, si c'est 50 c'est 5, etc. Parce que j'ai dû faire ça. ce truc de dire, mais oui, mais en fait, c'est juste la dizaine, en fait. Alors, faut pas me prendre la tête avec des pourcentages.
Tu vois. Exactement.
Et voilà, c'est tout. Mais voilà. Alors, attends, je sais plus où est la règle. J'essaye de la retrouver. Alors, ça se trouve, c'est une règle qui m'a été donnée à l'oral. Hein. Ça se trouve, elle est même pas dans la base, cette règle, en fait. C'est juste un
attends,
MJ.
Attends, attends, c'est un truc de Chaosium, mais qui est pas dans la base, mais qu'en fait, c'est quand même dans la base, que c'est une erreur que t'as reportée. Est-ce que tu essayes de te dédouaner, là, un petit peu?
Alors, attends. Donc, révélation apportée par
c'est
la
folie. C'est du Uno Cthulhu, en fait. Chacun a ses propres règles. En fonction de qui invite.
De
ah non, c'est une histoire d'échec critique et tout. Attends, j'y comprends plus rien.
Ah, moi, j'avoue que la première fois que j'ai lu les règles d'appel de Cthulhu, ça m'avait un peu...
Wow. Alors, attends, je dis de la merde. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trucs de... Bon, j'ai peut-être dit de la merde, je suis désolé pour les fans de Chaosium qui nous écoutent. Je dis souvent de la merde sur Cthulhu parce que c'est des règles que j'ai apprises, non pas en les lisant, mais par tradition, en fait.
Et de toute façon, maintenant, je comprends mieux ce passage-là, vu ce que tu me dis, que c'était une règle que tu récupères vraiment de l'appel de Cthulhu, ou du moins de ce que tu penses revenir de l'appel de Cthulhu, parce que ça dénote tellement avec toutes les autres mécaniques. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pondu 10% d'un truc?
Ah oui, c'est... Putain, mais comment on fait?
Je te faisais l'éloge de Donjons et Domino en disant, pour une fois, le combat, tu n'as aucun calcul à faire, tu enlèves toute la partie, jette des...
Alors... Je dis vraiment de la merde! Parce que, en fait, dans la base de Chaosium, c'est encore plus simple. C'est écrit, si un investigateur perd au moins 5 points de santé mentale en une seule fois, il subit un seul... Donc c'est encore plus simple que ma règle, en fait. Donc je suis vraiment une grosse merde. Je pense que les gens qui sont fans de Chaosium ont déjà quitté ce podcast en se disant, mais qui se guignole, quoi?
Tu as tort, Marie, tu as
tort. Ah oui, j'ai tort, j'ai tellement tort. Mais c'est ni la première, ni la dernière fois, je vous rassure.
Pardon, Chaosium.
Voilà. N'importe quoi. Bon, bah, bref, donc ça, voilà, c'est une règle à réécrire, en effet. Bah, tu vois, je pensais vraiment faire un clin d'œil. Parce que moi, on m'a toujours expliqué cette règle
bon,
comme
en,
ça.
En même temps, on a déjà eu des jeux de rôle où c'était comme ça. Hein. Oui. Certes, c'est peut-être pas l'appel de tout.
Alors, je me demande peut-être que les auditeurs retrouveront l'origine du problème. Je pense qu'il y en a plein qui doivent savoir ça. Johan, vas-y.
Et ça induit, du coup, une chose, le fait d'avoir lu ça. Là, j'étais en plus en mode, je lis les règles un peu, les nouvelles règles qui viennent se greffer aux règles existantes, un peu, du coup, pour éviter de vous faire trop patienter. Je vois ça, je me dis, oh, je lis le paragraphe d'après. J'étais pas du tout en mode calcul, en fait. J'étais pas là. Et donc, je vois après, donc effectivement, enfin, si un joueur atteint 0 point de sane, il devient littéralement fou, il n'est plus jouable. Donc, ça, je l'avais lu. Mais je me suis dit, les 10%, etc., ça n'y est pas encore, ça va être quand on va commencer à faire des gros jets. Surtout que j'avais vu que c'était les cas où on perdait autant de santé mentale. C'était rare au début, je me suis dit, pour l'instant, je mets ça de côté. D'où le fait que je n'avais pas lu ce paragraphe-là, que je ne l'avais pas explicité, du moins que je n'avais pas retravaillé avec mes termes, et que je n'avais pas, du coup, lu le petit... je vous avais pas non plus parlé du petit point suivant, comme quoi, à 0 point de 100...
Ça, tu vois aussi, dans l'ambiance, on l'a appris plus tard, que, ah oui, en fait, il faut faire attention au point de ça, c'est pas tombé à zéro le problème.
Ouais. Il faut pas tomber à zéro, sinon tu deviens fou.
Ouais,
et ton personnage.
Faut pas aussi tomber au dixième du.
Ouais, mais ça, on s'en fout. C'est Cthulhu. Je veux dire, là en l'occurrence, folie temporaire. Si pour une folie temporaire, c'est écrit dans la base que tu peux ne pas la jouer.
Oui,
c'est
vrai,
juste
plus,
pour rigoler, voilà, pour voir. Tiens, c'est marrant, si t'as catatonie et que t'es devant le boss, on imagine le perso qui est là. Ah. Et en fait, juste après, il fait bon, j'ai 4 en mouvement. Ok, 1, 2, 3, 4. Il y a côté. Voilà, c'est pour rire, en fait. Tu vois. Et c'est bien écrit. C'est bien expliqué. Mais j'avoue que cette règle doit être corrigée. Et c'est à ça que ça sert, les playtests. Hein. À passer pour un con devant tout le monde dans les podcasts de la cellule.
Mais du coup, comment tu arrives à bien dire... On peut être sérieux et en même temps, ça peut... Ces trucs peuvent aussi amener à des blagues et pas prendre le truc au sérieux.
Alors, voilà comment c'est expliqué dans le texte. Donc, la santé mentale. Le D100 permet de réaliser des jets de santé mentale ou jets de san. La santé mentale d'un personnage est notée de 100 à 0. Plus le personnage a de points de san, plus il est rationnel et vit dans un monde ordinaire et normal. Et à l'inverse, un personnage avec peu de points de san sera jugé irrationnel et vivra dans un monde mental plutôt marginal et anormal. J'imagine que toi qui as fait des études de psychologie, c'est absolument une vision parfaite de ce que c'est que la psychologie humaine.
Ah oui, complètement. Ah oui.
Donc, c'est pas... D'où la note qui vient ensuite. Cette façon de juger de la santé mentale est évidemment ridicule. L'idée ici n'est pas de rendre compte de la réalité des problèmes liés à la santé mentale, mais plutôt de rire du caractère simpliste de cette vision des choses. Ainsi, un personnage pourrait être rendu fou par la seule lecture d'un livre ou par le simple fait d'apercevoir un monstre au bout du couloir. Les effets de la folie décrits dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu sont eux-mêmes caricaturaux et visent davantage à une ambiance Scooby-Doo qu'à une véritable ambiance horrifique. Ce qui n'empêche pas les uns et les autres de jouer à se faire peur. Et c'est justement ce savant mélange entre la caricature d'un côté et l'horreur de l'autre qui crée l'ambiance unique propre aux parties de L'Appel de Cthulhu.
Ok, merci voilà pour la réponse. Expliqué.
Mais en fait, le truc de la santé mentale, et ça, moi vraiment, alors, je sais qu'il y a des gens que ça révolte, ce petit paragraphe-là. Je l'ai dit déjà dans des podcasts, et il y a des gens qui ont réagi, non, Cthulhu c'est sérieux, machin, etc. Enfin, qui jouent vraiment à se faire peur avec Cthulhu et qui considèrent que c'est un vrai jeu horrifique et tout. Il n'y a aucun problème avec ça. Je dis juste que cette vision caricaturale de la santé mentale était peut-être révolutionnaire quand oui, Sandy Peterson réagit à Donjons et Dragons. C'est clair que c'est fou de prendre en considération la psychologie des personnages quand en face le concurrent c'est Donjons et Dragons. Oui, mais aujourd'hui, au 21e siècle, voir la santé mentale comme ça, c'est ridicule. Et pour tout étudiant de psychologie ou de philosophie ou de...
En fait, même pour
n'importe qui voilà. En fait. Voilà. Donc l'idée de jeter un dé 10 pour savoir si tu vas être catatonique, hurler ou manger des allumettes, bah, c'est complètement stupide. Ben voilà, c'est pas comme ça que ça marche en fait la santé mentale. Et tu vois, et puis l'idée de dire que la personne qui a de la sane, il est rationnel.
Non, mais je suis d'accord. On aurait moyen de faire tout un podcast là-dessus.
Voilà, mais ça pourrait être intéressant un jour d'en parler de ça. Et donc voilà, donc pour moi, en fait, il faut reconnaître que c'est une caricature. Oui, certes, à l'époque, c'était révolutionnaire, certes, à l'époque, c'était horrifique, machin, etc. Mais c'est une caricature, et donc c'est ça aussi qui m'amuse avec l'Appel de Cthulhu, c'est de jouer de cette caricature. Genre, il y a un monstre au bout du couloir. Ah panique. Ah, j'ai des balles. Ah, je les mange. Ah, c'est bon, les balles de fusil. Parce que c'est ça. Et après, il y a un tour qui s'écoule. Parce que le temps que le monstre arrive vers toi, il y a un tour. Et là, hop, t'es redevenu normal. Parce que c'était une folie temporaire. Ça durait que, tu vois, un des trois rondes. Et t'as fait un. tu vois le truc, quoi.
Ça bon, serait bref. Tellement bien, en fait, que ça soit aussi rapide, les problèmes de folie, comme ça.
Ouais, ça serait réglé assez rapidement. OD. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment très amusé, toujours, quand on fait des playtests et des relectures, etc., de voir comme ça les impensés. Là, tu vois, l'Appel de Cthulhu, pour moi, c'était évident. Et en fait, il y a plein d'impensés. Tu vois, l'impensé de la Sane, effectivement, c'est n'importe quoi la façon dont je l'ai expliqué. C'est issu d'une tradition qui ne concerne que moi. Même la base de Cthulhu Chaosium, elle est plus claire que moi. Le coup des gargouilles, vous êtes confronté aux gargouilles. Ouais. Pour moi, c'est évident que c'est quand tu les vois, parce que c'est comme ça que ça marche dans la base. Mais c'est pas évident, en fait, quand, etc. Et plein d'impensés comme ça. Et j'en avais noté d'autres, mais je vais pas les détailler.
Je crois qu'on a parlé des gargouilles, mais on n'a pas dit pourquoi ça nous paraissait bizarre. Dans les règles du coup de Cthulhu, Donjons et Domino, c'est marqué que dès le moment où on rentre en confrontation avec la gargouille, donc non, effectivement, on ne l'a pas expliqué pourquoi on était arrivé à se poser des questions sur ces gargouilles-là. Dès le moment où on rentre en confrontation avec la gargouille, alors, du moins les gargouilles, alors obligatoirement, on fait un jet de santé mentale. Et donc, comme je disais, c'est pour ça que je vous ai demandé tous les deux, donc
Valentin
et Jérémy et Valentin, merci, il commence à se faire tard. Comment vous l'interprétez ? Moi, je partais du principe que c'était deux possibilités, soit on rentre en contact, si on rentre en confrontation avec eux, soit c'était à la vue, ce qui semblait plus crédible dans un univers d'épouvante lovecraftienne. Donc après, on a eu le consensus, tous les trois. Donc, je t'avais mis exprès de côté, Rome, pour dire qu'effectivement, c'était à la vue. Déjà, il y avait cette mécanique qui était similaire pour le Minotaure. Mais c'est vrai que tu enlevais ce côté, ce sont des gargouilles, ce sont des créatures horrifiques. La confrontation pouvait être, quand on rentre en contact avec la, l'être en fait. Ça aurait été un humanoïde, on n'aurait peut-être pas eu si loin la frontière, elle aurait été peut-être plus fine.
Et puis c'est quand est-ce qu'on voit en fait? Est-ce que c'est en ligne droite? Est-ce que c'est au détour des couloirs? Dans Donjons et Domino, il n'y a que le Minotaure qui a une règle claire, c'est il a la vision de la règle aux échecs. Et on suppose que tout le monde a la même vision, en fait, je pense. Enfin, je pense que du coup... Mais ce n'est pas évident. Est-ce qu'on voit une gargouille derrière des monstres? Il y a une question comme ça à un moment donné. Est-ce qu'on voit, tu vois, etc. Et donc, quand est-ce qu'on est confronté à la bestiole? Pour moi, c'était évident que c'était quand on l'a frappé ou quand on les voyait au bout des couloirs. Parce que c'est précisé qu'au bout du couloir, le monstre, au bout du couloir, machin. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Et j'ai un dernier point et après je te laisse Jérémy, c'est promis, parce que je sens que il est tard et que t'as envie de rentrer, je te comprends. La difficulté d'être observateur à son propre jeu. Là je me retourne vers toi aussi parce que comme t'es observateur en ce moment, on fait beaucoup de playtests des sorcières de Medavie. C'est hyper compliqué, vous vous rendez pas compte, mais à plein de moments j'ai dit non mais moi je veux pas, faites comme si j'étais pas là. Ouais, mais en même temps, vous vous retournez quand même vers moi. C'est-à-dire que quand même, c'est normal, tu vois. Et donc, c'est très difficile d'être observateur. Un exemple, par exemple. Alors, Jérémy.
Un vrai observateur, du coup, serait vraiment hors dehors de la table, loin. C'est-à-dire que du coup, déjà, tu n'aurais pas l'intention de te retourner pour le voir parce qu'il serait vraiment en dehors de la table. Il observe sans rien dire. Il prend son carnet et il note les choses. Là, c'était un playtest, mais dans lequel tu voulais aussi voir la position de joueur. Et c'est vrai que du coup, on ne pouvait pas s'empêcher de bêtement de poser une question en pensant que des fois, c'est une question sur le jeu de base, Donjons et Domino, mais ça pouvait amener ensuite une explication du jeu. Bon, bref, oui, ça a cassé un peu cette histoire de que simple observateur, mais parce que tu étais joueur.
Non. C'est marrant parce que tu dis, oui, tout de suite, tu parles de moi comme observateur, mais en fait, le problème, il est démultiplié. Parce que vous êtes tous observateurs. Vous savez qu'il va y avoir un podcast derrière. Donc en fait, vous n'êtes pas naturel quand vous jouez là.
Oui.
Eh oui, mais non, mais c'est hyper important.
Mais t'as raison.
Et j'ai un exemple. Le Minotaure. On s'est pris la tête pendant 5 minutes pour savoir si le Minotaure, il avançait sur une case ou une autre. On s'en branle.
Ah, mais en plus, c'est moi-même qui ai posé la question. C'est moi-même qui ai dit, bon, en fait, on s'en branle.
N'importe quel joueur normalement constitué s'en branle. Et là, c'est juste parce que c'est un podcast de la cellule qui est derrière, parce qu'on est en observation. Si.
Non, là, c'est moi. Non, je te le dis. C'est le genre de truc. Je dis, bon, alors, quel litige? Est-ce que ça s'est prévu ou pas? Mais parce que j'ai aussi une vision un peu game designer quand je joue à un jeu. Vu que j'ai fait plein de jeux de société, je regarde un peu ce qu'il y a derrière l'auteur. Vu que je suis un petit peu maintenant auteur dans mon coin, je regarde. J'ai forcément ces petits trucs en disant ah oui, alors dans cette situation, je fais quoi? Là, c'est pas une situation de podcast, mais je suis d'accord qu'un podcast, mais dans tous les podcasts, ça te donne une manière de jouer qui n'est pas une manière naturel de jeu.
Alors, attends.
Et qui va avoir une influence du coup sur la partie.
Ça c'est sûr. Mais même en dehors des podcasts, le playtest en lui-même, c'est-à-dire que le fait qu'on soit dans un playtest, par exemple, tu vois, je te dis, là on va faire un playtest Donjons et Domino, je sors, je me mets derrière un miroir sans teint. Imaginons que ce miroir là soit un miroir sans teint, je me mets derrière. Il va y avoir quand même des problèmes liés au fait que ce soit un playtest. Ouais. Parce que quand c'est un playtest, implicitement, on se dit qu'il y a des fautes d'orthographe. On se dit qu'il y a des trucs qui vont bugger. Et donc, on est beaucoup plus tatillon, beaucoup plus attentif qu'avec un jeu du commerce où on se dit, de toute façon, ça a été vu, c'est bon, on avance.
Ouais, on pense que c'est acquis.
On pense que c'est acquis. Et quand il n'y a pas, tu vois, par exemple, sur le Minotaure comme ça, on hésite entre deux. Quand il n'y a pas d'autorité autour de la table, bon, on s'en branle. On s'en fout. Et dans Donjons et Domino, franchement, pour avoir fait des tas de parties, tu vois, par exemple, la question du est-ce que le domino, quand il touche un autre truc. Il accède à la salle, machin truc. Mais en fait, quand il n'y a pas d'autorité autour de la table pour le dire, bah oui, il le fait, de fait.
Ou, non,
ou alors il ne le fait pas. Et
en fait,
on s'en fout. Et donc, tu vois, c'est ça. C'est le fait d'être. Je note dans ce playtest, une fois de plus, que le fait d'être en playtest, d'être en observation, y compris de moi, mais aussi pour vous. C'est-à-dire que votre démarche aussi vis-à-vis du jeu change. La preuve en est, même dès le départ, le truc de dire c'est un jeu Romaric Briand. Allez, on va pas être pareil que d'habitude. Bah oui, mais déjà, première erreur. En fait, là, si, non, c'est juste un, tu vois. Et c'est tout un tas de trucs comme ça, tout un tas de dynamiques. Et ça, j'ai pas de solution à ça.
Non, mais il n'y a pas de biais à enlever, de toute façon. Enfin, c'est des biais qu'il y aura forcément. Ouais. Tu dis, ah, on va faire un podcast, t'as le biais. On va faire un de mes jeux, il y a un biais. Donc c'est mort.
Ouais, c'est mort.
Mais par contre, oui, que tu le dis bien, quand on dit on s'en branle, même dans tous les jeux, même dans les jeux du commerce, hein, faut bien prendre compte qu'au bout d'un moment. C'est notre jeu, on est maître du jeu aussi, enfin on est possesseur du jeu, et donc au bout d'un moment on fait le but du jeu, c'est passer une bonne soirée. On s'en branle à savoir si le personnage doit aller forcément à gauche ou à droite. Alors qu'au bout du compte, ça ne change pas grand-chose dans le plaisir de jeu.
Et là, au final, par exemple, sur le Minotaur, on a décidé de le faire continuer à regarder le pauvre Valentin, alors qu'en fait, dans le fun du jeu, il aurait fallu jouer la règle du Minotaur telle qu'elle est écrite dans la base. C'est-à-dire que le Minotaur, il n'est pas censé savoir que les morts, ils se relèvent.
Ouais.
Il va aller regarder un maximum de cases et aligner. Et c'était pas normal d'avoir cette situation. J'étais chaque fois. Johan, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, alors, c'est bon. Okay.
Voilà, donc tu vois, c'est juste des petites remarques comme ça. Est-ce que vous avez d'autres remarques pour moi?
Non, pour moi, c'est bon.
On referme l'épisode. Donc, est-ce que ça vous a donné envie d'aller voir la suite?
Oui.
Ouais.
Oui.
Valentin, ouais. Moins fatigué, peut-être. La prochaine fois, il faudrait qu'on joue deux jours, peut-être, non? Vous croyez pas?
Ça dépend, ouais, la période là, pour moi, par exemple, ouais.
Ouais, j'ai senti fatigué sur la partie là ce soir. Effectivement, toi, Valentin. Un peu moins vous deux, là, vous avez eu l'air
d'être assez frais. Ça va bien.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à toi.
Bonne écoute, commentez.
Ouais, likez, partagez.
C'est ça.
Ah, c'est vrai que j'ai oublié. Sinon j'oublie, c'est ça.
La plein de commentaires. Crachez sur Romaric Brillant parce qu'il a dit du mal de Chaosium. Crachez.
Ça fera buzzer. Exact, c'est très bien. Ah, mais il a l'esprit, il est bon.
Enfin, écoute, il faut vendre le truc.
Merci beaucoup, à très bientôt tout le monde.
Au revoir.
Portez-vous bien et surtout plaisir.